À toi qui nous écoute, Besançon, ville de Besançon, ville de mon cœur, on voudrait bien se faire un zénith pour parler cancoyote avec toi.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. Et nous ne commencerons pas par Juan, malheureusement, puisqu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous commencerons par Hicham.
Coucou.
Comment ça va?
Ça va.
Camille.
Coucou patron.
Ça va?
Mais ça va très bien et toi?
Très bien, merci. Et nous avons avec nous une invitée pour sublimer la place laissée par Juan, qui est Émilie.
Bonjour.
Coucou Émilie.
Bonjour Émilie.
Comment vas-tu?
Très bien, et vous?
Bah, très bien, merci. Émilie, qui est une connaissance apportée par Hicham.
Oui.
Il nous a dit que tu étais passionnante et que tu as des choses à nous raconter, donc on a hâte.
On verra.
Il t'a très très bien vendu.
Oui, ça c'est vrai.
Donc, je me suis battu pour que tu puisses venir parce qu'il ne voulait pas.
Oh, ce mensonge.
C'est fort, toi.
J'ai toutes les archives. Bah, écoute, j'espère que tu étais bien accueillie et que ça, tu es à l'aise, bien installée dans ce studio fait de briques et de brocs.
C'est parfait, merci.
Ah, parfait. Sur ce, est-ce qu'on ne commencerait pas avec le programme de cet épisode?
Mais allez.
Alors, programme de cet épisode, je vais commencer.
Une fois n'est pas coutume,
sauf que bon, c'était la dernière fois aussi. Mais,
tu vas le dire à chaque épisode, ça?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je vais vous parler des prémices de la génétique et du petit potager, qui a mené. Je vous parlerai de Johann Mendel et Gregor Mendel. Voilà. Après, okay. Ce sera Émilie.
Et moi, je vais vous parler de mariage, parce que c'est la saison.
C'est vrai,
c'est vrai.
Solstice d'été, sujet précédent, vous vous souvenez?
Oui.
Cool, après ce sera Camille.
Absolument. Et moi je vais vous parler des harems, parce que ce n'est pas la saison, mais...
Je sais pas quand c'est mûr un harem, tu nous diras.
Je sais pas non plus, mais voilà, je vais vous parler du harem.
Ok, très bien. Hâte d'apprendre plein de choses après le mariage, parfait.
Et puis après on finit par moi, je vais vous parler du déménagement.
C'est un animal qui vit où, ça?
Je me demande comment t'as eu l'idée, c'est ouf.
Oui, Camille et moi, on a chacun déménagé. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas? On s'est déménagé, mais on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi, comment, avant?
Et bien sûr que si, c'est que t'as besoin d'aller d'un endroit.
Oui, mais d'où ça? Enfin, la base du déménagement. Mais enfin, on verra ça un peu plus tard.
Ça marche. Nickel.
Tu vas nous dire s'il y avait des équipes de déménageurs, genre les déménageurs bretons au Moyen-Âge?
Peut-être.
Je sens que tu vas nous partager tes codes promo pour un service de déménagement, en fait.
Non, je ne suis pas sponsorisé.
Je vous rassure, auditeur, auditrice, son déménagement est passé. Donc, en fait, ce sujet ne sert pas à recruter des personnes pour le déménagement.
Non.
Ouais, c'est pas un faux plan.
On aurait quand même eu besoin.
On aurait dû faire ça.
Auditeur, auditrice, qu'est-ce que vous faites dimanche prochain?
Tu vas rencontrer Hicham et Camille?
C'est pas le genre de la maison.
Open cancoyote contre un portage de carton.
Ça part en couille. Allez.
Bon, du coup, allons-y, on va commencer.
Allez.
Les petits pois, les petits pois, on les aime bien comme...
Je ne suis qu'un moine du monastère de Shaolin.
Enfin maintenant, comme vous le savez, on dit SVT.
Et cette tenue de moine défroqué, je l'invente aussi, hein.
Trop d'informations dans tous les sens. J'avoue. Dans ce jingle.
Et tout était pertinent, à part le côté défroqué, parce qu'en tout cas, j'ai pas eu connaissance de ça.
Donc, il va vraiment y avoir une histoire de moine qui cultive des petits pois.
Et tout à fait. Mais littéralement, ça peut pas être plus littéral que ça. Et je remercie d'ailleurs ma chère frangine, ma chère sœur Sarah, qui est pas du tout religieuse, c'est littéralement ma sœur, hein, parce qu'on va parler de moine, mais plus tard. Elle m'a suggéré ce sujet, donc je rends à Sarah ce qui était à Sarah. Elle m'a suggéré ce sujet qui m'a bien tenté. Même si à la base, je me suis dit, parce que ça parle quand même d'un personnage et vous êtes quand même plus doué que moi pour faire des biographies, mais je me suis quand même essayé à l'exercice. Et je vais vous parler, pour commencer, d'un jeune homme qui s'appelle Johann Mendel. Il est né le 20 juillet 1822, en territoire autrichien à l'époque, et ça correspond aujourd'hui à l'actuelle République tchèque. Camille qui me regarde avec des petits yeux plissés, genre tu es une connerie, je t'égorge. Mais
vers Brno ou
Olomouc? Ouais, c'est plus vers Brno, Olomouc ou Spline.
On en parlera peut-être après. Oh là là,
ah,
surprise.
La vache.
Donc son père était paysan et sa mère fille de jardinier. Et il les a aidés dans leur tâche un peu quand il était jeune. Donc il a toujours eu un peu les mains dans la terre, les graines, les feuilles et plein de choses. Très jeune, on a remarqué qu'il était plutôt doué pour les études. Et ses parents se sont un peu saignés aux quatre veines, comme on dit, pour lui offrir une éducation pour pouvoir exploiter son potentiel. Donc voilà, ils ont essayé de l'envoyer à diverses formations. Malheureusement, suite à un petit accident, son père a un peu galéré de plus en plus à l'aider financièrement. Et c'était une période plutôt difficile pour le petit Johan qui a dû bah, un peu travailler de lui-même pour subvenir à ses besoins et à la fois bah, survivre, ce qui est plutôt une tâche, partagée par une bonne partie de l'humanité. Ouais. Et en plus, bah, aussi pour essayer de se payer des études, parce que bah, tout le monde s'accordait à dire qu'il était plutôt malin et doué, donc il bah, fallait un peu continuer. Le fait est que, bah, à bout d'un moment, un parent qui galère, etc., bah, il est rentré dans les ordres, en fait. Y a un de ses enseignants qui savait que c'était un petit malin qui était dans la galère, et il y en a un qui l'a recommandé pour rentrer au monastère de... De Brno. Donc il s'appelait pas comme
deuxième
ça à l'époque.
Deuxième plus grande ville de République tchèque, Brno vous accueille au sud de ce beau pays.
Alors, ça avait un autre nom à l'époque, mais c'est le nom que ça a pris par la suite. Donc République tchèque, sachant que lui à la base était du côté de l'Empire autrichien. Mais pour rentrer à ce monastère, on lui a demandé d'apprendre le tchèque. Ça n'a pas une très grande importance, mais maintenant vous le savez. Donc ce cher Johann Mendel rentre dans les ordres. Il prend donc le nom de Gregor Mendel, et vous le connaissez peut-être plus sous ce nom.
Non.
Voilà. Donc, donc quand je vous parlais de Johann Mendel et Gregor Mendel, c'est la même personne effectivement. C'est le jeune homme et, et le moine en soutane qui lui a succédé. Bon, ce cher Gregor Mendel, la vie monastique, c'était pas trop son truc. Genre les toges, les tonsures, tout ça. Enfin, lui, il était vraiment venu là pour profiter de l'éducation et des moyens qui étaient...
Ils portaient des toges, les moines ?
J'en sais rien, je suis pas moine. Bon, ils portaient des bures, des robes de bure, je sais pas. Ils portaient des... En tout cas, ils portaient des trucs.
Précision. Voilà.
Oui, ouais, ils n'étaient pas tout nus.
Donc, la vie monastique, c'était pas son truc. Lui, son truc, c'était quoi ? C'était plutôt la biologie, la botanique. Et ça tombe plutôt bien parce que le monastère dispose de tout ce qu'il faut pour valoriser ses compétences. C'était déjà un lieu un peu d'expérimentation à ce niveau-là. Puis, il faut savoir que, tu pourras peut-être me confirmer, Camille, mais... À l'époque, les lieux, certains religieux étaient aussi des centres de connaissances. Ça regroupait pas mal d'érudits qui transmettaient leurs connaissances.
Ah bah c'est clair, oui.
Donc pour lui, c'était l'endroit parfait. Alors se lever tôt pour la messe, il était pas fan. Par contre, pour aller planter des carottes, il kiffait bien. Donc il a poursuivi son instruction au monastère et quand il a une trentaine d'années, il va enfin arriver à accéder à une prestigieuse université où il va étudier pendant 2 ans non seulement le cursus normal avec mathématiques, physique, etc. et aussi d'autres notions qu'il avait déjà un petit peu dans le sang, qu'il avait déjà en plus un peu étudié dans le passé, donc la botanique, la biologie et d'autres choses. Et après ça, il va revenir au monastère et il va devenir enseignant, donc il va partager son savoir. Mais il va aussi commencer ses propres expérimentations et c'est là que mon Dieu, le drame, c'est là que ça part en couille, parce que il a pas fait les choses à moitié. Il a fait, je peux vous le dire dès maintenant, en fait, il a fait des, ses expériences l'ont amené à des conclusions absolument révolutionnaires pour l'époque, qui bien sûr, comme on le verra par la suite, comme beaucoup de conclusions révolutionnaires n'ont pas du tout été appréciées à leur juste valeur à l'instant T où elles ont été révélées. Mais non, il a fait un sacré boulot et surtout avec une assiduité, une précision impressionnante. Donc ces expériences, c'était quoi ? C'était justement avec des petits pois. Parce que ce cher Gregor Mendel, en fait, il était passionné par les notions d'hérédité, les mécanismes d'hérédité, qui n'étaient pas du tout clairs à l'époque. Alors, il faut savoir que ce cher Gregor, il était contemporain de noms plutôt prestigieux qu'on connaît, donc Darwin, par exemple. Donc, c'est une période où il y a plein de théories qui commençaient à émerger et qui chamboulaient tout, mais en fait, elles n'étaient pas encore toutes connectées entre elles. Il y a notamment la théorie préexistante sur l'hérédité, je vous la partagerai après, mais qui était pas du tout reliée ni au darwinisme ni à rien. Ils étaient assez rigolos dans leur façon de concevoir les choses, en tout cas sur l'hérédité.
C'était logique ou pas du tout ?
Tu verras, tu me diras. Okay. Tu me diras, mais pour nous, c'est plutôt logique. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque du lycée, ce qu'on apprenait en SVT sur l'hérédité ?
Du tout.
Alors là, non. Mais j'ai fait un bac L, moi, en plus.
T'as dû l'avoir aussi. Émilie, peut-être ?
Pas du tout.
Non, avec les deux gamètes, les deux trucs, les deux brins d'ADN avec...
XY.
Ouais, voilà.
Oui, ça, je m'en rappelle, XY.
Oui. Oh, putain, la vache.
C'est ça que tu...
Oui, c'est ça, c'est la génétique, l'hérédité. Est-ce que deux parents aux yeux bleus peuvent avoir un enfant aux yeux marrons ?
Je ne me rappelle pas du tout. Les chromosomes et les...
C'était en troisième qu'on avait fait ça ?
Oh, je sais plus, mon collège, fin de collège ou
ouais,
lycée.
Je crois que c'était ça, ouais.
Ce qui était plutôt, ce que je trouvais plutôt intéressant, c'est qu'en fait ça, on nous l'a appris et on trouvait ça extrêmement logique et très cool. Mais en fait, ce mec, il a découvert, il a mis en avant notamment 3 lois qu'on appelle donc les lois de Mendel et qui redécrivent ça, mais alors qu'il y avait rien qui avait été fait à l'époque là-dessus. Donc nous, ça nous a paru très logique qu'on nous l'a appris, mais ce mec-là, il a révélé ça aux yeux du monde et c'était assez fou. Donc il a fait des expériences avec des petits pois. Pourquoi des petits pois ? Parce que c'est facile à faire pousser. Enfin des petits pois, des pois plutôt. Donc des pois à manger quoi. Donc il y a des petits pois, des gros pois, des pois.
D'accord.
Quoi.
Des moyens pois.
Voilà. C'était plutôt facile à faire pousser. Il y avait des caractéristiques qui étaient assez faciles à identifier et à déterminer. Et c'est aussi une plante qui fonctionne par autofécondation. Donc, si tu laisses une plante toute seule, elle peut se féconder elle-même. Donc, avec certes deux gamètes différents. Donc, il y avait le pistil et le je sais pas quoi. Mais voilà, donc c'est assez facile de, du coup, de faire se reproduire les
espèces. C'est surtout que tu nourris tout le monastère après derrière.
Bah, en plus. Ce qui est... Par contre, je me suis dit, alors vous allez voir l'ampleur des expérimentations, des hybridations qu'il a pu faire. Mais il a dû en bouffer matin, midi et soir des pois, quoi. Enfin, c'était affolant. Pour ses expériences, donc, il a fait des expériences qu'on appelle d'hybridation, où il a pris des espèces, il les a fait se reproduire entre elles, se croiser, etc., pour voir ce que ça donnait. Et il s'est basé sur cette caractéristique. Enfin, c'est celle qu'on cite le plus, mais en fait, je pense qu'il a, enfin, il a dû faire mille choses à côté, mais les principales qu'il a étudiées. Donc, cette caractéristique, la forme de la graine, donc en fait, cette caractéristique avec chacune deux variantes bien distinctes pour chaque caractéristique. Donc, la forme de la graine qui peut être lisse ou ridée, la couleur de la graine qui peut être jaune ou verte, la couleur de l'enveloppe des graines qui peut être blanche ou grise, la forme de la gousse qui peut être lisse ou... Attends, mûre, pardon, la forme de la gousse mûre qui peut être lisse ou écrêtée. La gousse, c'est l'enveloppe, si tu veux, l'enveloppe où il peut y avoir les pois. Qui peut être lisse ou écrêtée, la couleur de la gousse jeune qui peut être verte ou jaune, la position des fleurs qui peut être soit sur les côtés des branches, soit en terminaison des branches, et enfin la longueur de la tige. Donc tout ça c'était assez facile parce que quand on dit qu'il y a cette caractéristique avec deux variantes, c'est que pour la longueur de la tige par exemple, il y a une variété de pois qui avait des tiges très très courtes et l'autre qui avait des tiges très très longues. Donc quand on fait une hybridation, on est moyenne. Capable de savoir très facilement quel caractère a été pris par la plante.
Ah mais ça fait pas genre une moyenne ?
Ah bah c'est ce qu'on va voir. Donc il a fait des milliers d'hybridations soigneusement documentées. Donc selon les sources que j'ai trouvées, enfin... Justement, suivant les sources plutôt, il y aurait entre 10 000 et 30 000 hybridations. Quand on dit hybridation, c'est vraiment genre deux plantes qui donnent une autre plante. Ouais. Donc, enfin, deux variétés, deux plantes qui donnent une autre plante. Donc, c'est quand même une sacrée fourchette entre 10 000 et 30 000. Mais même en fourchette basse, c'est impressionnant. Donc, c'est d'après ce que j'ai pu trouver, ça aurait été genre une dizaine de milliers très largement documentés et étudiés. Et après, d'autres qui ont été faits pour des essais périphériques. Mais c'est déjà monumental et ça a duré quelques années. Donc, ça, c'est fou. Donc le résultat de ça, c'est que donc il a fait trois conclusions les plus connues, donc les trois lois de Mendel. Et on va commencer par la première. Donc si on prend, donc on reprend les notions de SVT que vous n'avez pas du tout retenues. Donc pour lui, il a compris qu'en fait, si on prend deux variétés qui sont chacune pures et qui ont un caractère différent, donc on va dire tige courte, tige longue. Si on dit qu'elles sont courtes, c'est qu'en fait elles ne possèdent que le caractère tige courte ou tige longue chacune. Si on les fait se reproduire, en fait, on peut prédire à 100% les caractéristiques de la première génération d'hybrides.
Et ça, si elles seront longues ou courtes, quoi.
Exactement. Ou alors oui, pas moyenne en l'occurrence.
Voilà, mais
ouais. Pourquoi longue ou courte ? Enfin, qu'est-ce que ça met en avant ce truc-là ? Ça met en avant le fait que les générations filles, donc hybrides, leur matériel génétique, il vient des deux parents. Systématiquement. Il n'y a pas juste un parent qui donne telle partie et l'autre parent qui donne telle autre partie. Ça, les caractéristiques vont être données par les deux parents. Donc ça, c'était une première conclusion assez basique, mais plutôt importante. Deuxième loi de Mendel, c'est justement la mise en avant du concept de dominant et récessif. Donc si on prend cette première génération qu'on va appeler F1 d'hybride, enfin qui est communément appelée F1, parce que moi, je ne l'appellerai pas comme ça, d'hybride... en fait, on se rend compte que si on prend, alors mettons, on prend pour la génération F0, donc les parents, on a les tiges longues et les tiges courtes. On sait que systématiquement, mettons, quand on fait se reproduire tiges longues et tiges courtes, ça donne que des tiges courtes en génération F1. Mais en fait, on se rend compte que si on fait se reproduire ensemble des plantes de génération F1, donc hybrides, pas pures, à tiges courtes, elles peuvent quand même donner une variété à tiges longues.
D'accord.
Et ça, comment ça se fait à votre avis ?
Parce qu'elles ont gardé des gènes de la première.
Exactement. Exactement. Parce que du coup.
C'est un peu comme quand on dit, par exemple, une grand-mère qui va être rousse, aucun des deux parents n'est roux. Tu peux quand même avoir une petite fille qui va être rousse parce qu'on dit que parfois certaines caractéristiques sautent une génération.
Ouais, et c'est ce qu'on. C'est pas forcément sauter les générations, mais c'est ce qu'on appelle les caractères récessifs. Donc il y a un dominant et un récessif. Donc si tu mets une tige longue et une tige courte ensemble, si le dominant c'est la tige longue. J'avais dit tige longue, peut-être, je ne sais plus. Donc, on va dire, si le dominant, c'est la tige longue, ça va systématiquement donner des F1 tiges longues. Par contre, vu qu'elles vont avoir tige longue et tige courte, si elles donnent toutes les deux aux enfants des tiges courtes, ce sera des tiges courtes.
Okay.
Donc, ça, c'était intéressant aussi pour voir l'existence, la coexistence des différentes caractéristiques. et voir bah, ce qui était transmis aux enfants et comment interagissaient ces différents caractères et comment ils s'exprimaient surtout. Et enfin, la troisième loi de Mendel, c'est que c'était pas forcément évident à l'époque, et comme les autres lois, je trouve ça assez génial qu'il ait pu faire ça avec des poids, c'est qu'il avait remarqué que certains caractères s'hybrident de manière indépendante. Donc là, j'ai pris un exemple très simple avec un seul caractère pour cet exemple pour les hybridations. Mais il faut voir que lui, il a fait donc des études sur 7 caractères, sur les plantes. Et donc s'il y a, des plantes avec des feuilles, si tu regardes la couleur des feuilles, la longueur de la tige et la forme des graines, par exemple, en fait, ils ne vont pas tous s'hybrider en même temps de la même façon.
Oui.
Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça?
Alors là, par contre...
ce que ça veut dire, c'est que tout le matériel génétique...
Pas trop
ça. un petit peu. Ouais. Matériel génétique ne se trouve pas au même endroit. Et D'accord. Ça met en avant l'existence justement des gènes et du fait d'avoir des chromosomes différents, avec le fait que les gènes se trouvent potentiellement à des endroits différents. Donc c'est pas parce que tu as filé un petit bout de matériel génétique avec certaines caractéristiques que ça va contenir toutes les caractéristiques. Donc c'est pour ça que tu peux avoir différents mélanges, différentes combinaisons qui vont donner un être vivant plutôt entre guillemets unique par la suite, et que tout ne va pas s'hybrider en même temps de la même façon. Okay. Voilà, donc c'était plutôt fort pour l'époque. Mais malheureusement, déjà à partir de ça, il s'est un peu fait kiffer dans le monde scientifique, parce qu'il a écrit donc un article, une thèse, il a présenté ses résultats, etc. Il s'est fait son petit kiff, et malheureusement ça n'a pas marché de ouf. Les gens étaient pas super réceptifs. C'est un peu dommage, sachant que ça c'était vers le milieu du 19e siècle, donc c'était on était totalement précurseur en la matière. Par la suite, il a continué à faire des expérimentations, et petit à petit, en fait, il a pris des responsabilités au monastère, et malheureusement, ça l'a éloigné un petit peu du côté scientifique. Ouais, voilà. Parce qu'il a dû, dans ses
bails. Haram, quoi.
Non, même pas. Dans ses bails de monastère, c'était vraiment encouragé, mais il a pris la place, il a vraiment monté dans les grades, et il y avait, des bails politiques à régler, où il voulait justement défendre le droit des moines, des religieux, etc. Et ces tâches lui prenaient tout son temps. Et vu qu'il avait, le fait de gérer les affaires du monastère, il avait beaucoup de personnes sous sa responsabilité. Et soit il faisait pousser des poids, il faisait des expériences, soit il s'occupait de tous les moines. Guerre, ouais. Bon, il s'est dit, je vais peut-être m'occuper d'eux quand même.
Mais c'est bizarre. Enfin, moi, je pensais que science et religion n'allaient pas ensemble.
Parce que c'est
Dieu qui nous a créés, on cherche pas à comprendre.
Oui, mais ça dépend.
Pas forcément. Et puis t'as chez les catholiques, t'as aussi quand même, dans certaines branches de la foi chrétienne, l'envie de comprendre.
C'était pas calculé, fais pas de clin d'œil.
De quoi ? Mais si. Mais déjà, j'ai pas fait de clin d'œil, j'ai fait.
Il y a de comprendre, et aussi la question où certaines personnes se disent que ok, c'est volonté divine, mais justement ça c'est l'expression de la volonté divine.
Oui.
Mais bon, on va pas partir dans le truc théologique, mais non, c'était plutôt encouragé, ils étaient plutôt érudits justement, donc c'était plutôt bien vu. Donc, comme je disais, malheureusement, pour finir ce sujet, ce malheureux Gregor Mendel n'a pas été reconnu à sa juste valeur, mais comme ça arrive beaucoup, il est mort le 6 janvier 1884 à Brno, qui est toujours aussi imprononçable.
Oui, t'as vu, c'est horrible. Hein,
ouais, au niveau de l'actuelle République tchèque. Donc, notez bien 1884, et en fait, ce n'est qu'au début du XXe siècle que ça a été redécouvert par... En fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu 3 publications scientifiques au début des années 1900, donc je crois que c'est 1902 ou 1903 dans ces eaux-là. Il y a eu 3 publications scientifiques quasi simultanées dans le monde, à travers le monde. Et finalement, en fait, tous ces 3 chercheurs se sont accordés pour dire que quand ils ont redécouvert les travaux de Mendel, ils se sont accordés pour admettre qu'il était totalement précurseur en la matière. Donc ce mec avait quasiment 20-30 ans d'avance.
Ouais, 25 ans d'avance, c'est dingue.
Ouais, sur eux, et c'est assez ouf. Et donc tu me demandais tout à l'heure, Ichouchou, quelle était la théorie à l'époque, la théorie de l'hérédité, la gestion de matériel génétique à l'époque. En fait, c'était la théorie de l'hérédité par mélange. Donc, on pensait que le matériel génétique des deux parents se mélangeait entièrement pour donner celui de l'enfant. En fait, un peu comme si on faisait du sirop à l'eau. Donc, tu prends du sirop, tu mets de l'eau, tu touilles, et t'as pas deux phases, quoi.
C'est-à-dire qu'un papa blond avec une maman qui a les cheveux noirs, l'enfant allait forcément être châtain ?
C'était un peu l'idée. En fait, c'était ce qu'on pensait. Donc, si tu prends une plante aux fleurs violettes et une plante aux fleurs blanches, ça pouvait donner une plante aux fleurs roses.
Rase.
Alors que, en fait, non, pas du tout. Ça va donner l'un ou l'autre.
Bah,
Mais après. il y a peut-être il y a une possibilité d'avoir des fleurs roses, mais uniquement parce que le caractère couleur n'est pas géré par un seul gène, par exemple. Oui. Il peut y avoir plein de gènes différents qui font que bah, tu peux avoir plusieurs choses. Et sachant qu'il n'y a pas aussi forcément que deux variantes pour un caractère, donc c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, ce mec était quand même un putain de génie pour l'époque, parce qu'avec des putains de poids, il a pu mettre en avant... Bah, encore aujourd'hui par les spécialistes du monde entier, il est reconnu comme étant un précurseur en la matière. Il a découvert des choses de ouf et voilà, le mec était quand même moine et il a donné toute sa vie pour les études, pour partager tout ça, et je trouve ça assez fou. Voilà.
Et bah merci beaucoup, super intéressant. Ouais.
Merci. Ah, les petits pois, les petits pois. Ouais,
donc je comprends maintenant pourquoi tu...
Ouais. Pourquoi j'ai parlé des petits pois ?
Pourquoi, ouais.
Ah ouais, allez,
parce que
pois,
c'était pas évident.
Pois. Je vous enverrai la comptine d'ailleurs qui reste magnifiquement en tête, c'est génial.
Ça ira, merci.
Ben sur ce, il me semble qu'on va passer au sujet d'Emily.
Tout à fait.
Et toi, pourquoi tu t'es jamais mariée ?
Il y a 3 mois, je me suis réveillée un matin mariée avec un ananas.
C'est une loi qui interdit la polygamie. Une loi toute simple, toute bête, voilà, faut juste signer. Hein.
Pourquoi il y avait Mathieu Perry qui s'est marié avec un ananas?
Bah, parce que voilà, il y avait le mot mariage dedans.
Mais c'est dans quel film qui s'est marié avec un ananas?
C'est dans L'âge de glace, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est lui qui.
Ah, il a fait une voix là-dedans?
Ouais.
Ok, ok.
Et pourquoi? C'était quoi? C'était la musique des experts, non?
Non, c'était Law and Order. En gros, elle allait parler
des lois.
Des lois du mariage.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien.
Je suis littéralement en train de vous expliquer. Mon...
Mais non, mais moi j'ai trouvé bien.
Non, mais c'était. Mais
si on l'avait pas trouvé bien, ce serait pas intéressé.
Absolument, allez, c'est hop. Vrai.
Sur ce, Émilie.
Allez, c'est parti.
Et donc, du coup, je vais vous parler du mariage et surtout de savoir quelles sont les influences de la société sur l'évolution du droit. Et l'exemple le plus probant, en fait, dans la société française, c'est le mariage. Cool. Donc, pour ce faire, on va faire un petit retour en arrière. Il faut revenir en 1542 avec le Concile de Trente qui établit le mariage, on va dire, indissoluble. C'est-à-dire que le mariage devra être fait devant un curé avec des témoins et après, c'est pour la vie. À quelques petites subtilités près, la séparation de corps, où en gros, l'Église pouvait autoriser, si les gens n'habitaient plus ensemble, qu'on le tolérait.
C'est pas genre le pape qui devait...
On pouvait pas annuler un mariage aussi si on prouvait qu'on s'était marié à une cousine, enfin un truc comme ça.
Ah oui, alors après, là, on vient dans des petites subtilités. Et souvent, en fait, c'était pas une annulation, c'était, une
dérogation.
Une séparation de corps.
Ouais. C'est une séparation de corps, et donc du coup, c'est plutôt un relâchement du lien conjugal qu'une dissolution du mariage.
Parce que tu peux pas te remarier, en fait, quoi.
Non.
Voilà, t'es juste séparé du conjoint, mais vraiment. Tu te maries pas.
Okay. Non, on reste marié à vie.
Mais super, comme ça, au moins, t'es sûr que tu te remaries pas avec quelqu'un d'autre. Tu vois, t'es séparé du conjoint, tu te remaries pas.
Nickel.
On te lâche la grappe.
C'est ça. Okay. Donc du coup, après, donc là on est au Moyen-Âge, et du coup ça posait quelques petites difficultés au niveau de la discrimination, parce que, mis à part les catholiques, il y avait quand même à côté, il y avait 750 000 protestants en France, il y avait 40 000 juifs, et tous ces gens-là, bah, ils ne pouvaient pas être reconnus, c'est-à-dire qu'ils avaient des unions qui étaient illégitimes, avec des enfants qui étaient illégitimes.
Ah bah oui.
Donc du coup, pas d'héritage, pas de socle de famille, et donc aucune personnalité juridique. Donc là, on va faire un petit saut dans l'histoire. On arrive à peu près à la Révolution, en 1789. Le mot mariage, comme on l'entendait, commence à tomber pour arriver à contrat civil. On transforme le mariage pour essayer de le rendre plus laïque. Et donc, du coup, il faut attendre la constitution du 3 septembre 1791 et son décret d'application en 1792 pour voir apparaître le mot contrat civil. Le mariage devient laïque. Il va être effectué par des officiers municipaux.
On ne se marie plus devant Dieu, en fait.
Alors, tu peux toujours, ça sera la deuxième partie, mais la première partie, tu es obligé de te marier devant l'officier municipal.
C'est marrant, parce que je ne m'étais jamais rendu compte, mais c'est vrai que, vu que c'est un héritage religieux, si directement, au lieu d'appeler ça mariage, on avait appelé ça contrat civil, on se ferait beaucoup moins chier aujourd'hui avec toutes ces histoires de « non, mais toi, tu as le droit de te marier, mais toi, tu n'as pas le droit ».
Bah, aujourd'hui, tu te fais un petit peu moins chier.
Oui, c'est de la terminologie, quoi, au final.
Ouais.
Oui, mais justement, il y a plein de gens qui ne veulent pas qu'on autorise le mariage pour tous parce que c'est le terme mariage pour tous qui les choque.
C'est exactement ce que je dis.
Oui, mais
c'est
voilà,
que si à l'époque on avait choisi un autre terme,
c'est ça.
Oui, puis après, enfin, ça restait.
Ils auraient trouvé autre chose, je pense. Mais...
par philosophie, en fait, le mariage c'était simplement l'union de deux personnes qui engendrait derrière la procréation des bébés, des enfants, le lien de parentalité, la filiation. Et du coup, on arrivait à une famille, quoi, et c'était le seul moyen d'être reconnu dans la société.
Okay.
Donc, c'est à partir de la Révolution, du coup, qu'on arrive sur un mariage laïque et civil. Et la petite subtilité, c'est qu'à cette époque-là, ils étaient un peu avant-gardistes, on pouvait divorcer.
Alors,
Ah bah oui.
Au civil.
Ah oui,
au mariage. Okay. Pendant la révolution. Oui.
Donc, en fait, on pouvait divorcer pour incompatibilité d'humeur.
Oui.
C'était du divorce pour consentement. Les deux époux devaient être, bien évidemment...
Sachant qu'à l'époque, le consentement se mettait bien au fond du...
Mais bon, c'était quand même quelque chose qui était acquis. Ensuite, on arrive en 1804. En 1804, c'est
Napoléon.
Exactement, c'est tout à fait ça, avec la promulgation du code civil, tout simplement, qui entérine ce mariage civil. Et donc, du coup, on est obligé de se marier devant l'État en premier, puis après de faire un mariage religieux si on le souhaite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la majorité pour être mariée, c'est 25 ans pour les hommes, 21 ans pour les femmes. Il y a aussi encore une petite subtilité, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous êtes majeur au sens de la loi, il faut quand même que le futur époux fasse une demande en termes respectueux. Qu'est-ce qu'on appelle la demande en termes respectueux ? Ah non, c'est hyper important, c'est tombé qu'en 1907 en France.
Non.
Eh oui, non, c'est hyper tard.
Alors, elle a le droit d'être plus jeune, par contre, tu dois être respectueux.
À genoux avec des gants ?
Bah, tu mets tes gants ou pas, mais en tout cas, il fallait aller voir le père de la future épouse, de la fiancée, pour demander poliment est-ce que je peux l'épouser, et sans l'accord du père, c'était pas possible.
Ah là, je lève tellement les yeux au ciel carrément, que mes yeux font des backflips.
Mais faut... Parce qu'aujourd'hui, il y en a encore qui font ça, mais symboliquement, oui, et qui vont demander la main du père.
Oh, c'est plutôt arriéré, mais bon, parce que je vois pas l'intérêt de demander à quelqu'un d'autre qu'à la personne qui va se marier. Mais bon.
C'est de la politesse.
Mais s'il dit non, on s'en fout aujourd'hui, quoi. Alors qu'à l'époque, non. Si on n'a pas l'aval de.
Mais parce qu'elles n'avaient pas de droit. Ah, oui.
Alors, sur les petites subtilités, justement, est-ce qu'elles avaient des droits ou pas, ces petites dames à cette époque-là. C'était simplement qu'il faut aussi se remettre dans l'époque, c'est-à-dire qu'on sort de la Révolution et il y a une vision qui est commune, c'est une vision pyramidale, c'est le bon père de famille. Napoléon, il y croyait, c'est-à-dire que tout passe par le bon père de famille. Les lois sont faites en fonction du bon père de famille. Vous devez agir en fonction ou en vous mettant à la place du bon père de famille. Qu'est-ce que vous feriez ? Et donc, du coup, il y a aussi un deuxième problème, c'est une fois que vous êtes marié, qu'est-ce qui se passe entre les deux personnes ? Il faut savoir que la femme, elle n'avait pas une place non plus prédominante dans la société. Et donc, du coup, le code civil rend la femme, on va dire, en perpétuelle mineure. C'est-à-dire qu'elle est au même niveau que les incapables, que les enfants ou que les fous. Donc, elle n'a pas de droit sur ses biens à partir du moment où elle est mariée. Elle a un devoir d'obéissance. Non, c'est charmant, c'est charmant.
C'est un meuble, enfin, globalement.
Non, c'est pas un meuble.
Elle a perdu les bonnes valeurs.
Il faut encore... ça doit être ça.
Tu te calmes. Il faut encore tout de suite.
C'est une blague, on se calme.
Ouais, non, carton jaune.
Non, mais il faut vraiment se restituer dans l'époque. Non, oui. C'est que comme on sort de la Révolution, ce qui faisait le plus flipper la société...
Les femmes.
C'était pas la guillotine.
Mais non, c'est pas ça. En fait, ce qui faisait peur aux gens, c'est la dualité de pouvoir.
Ah ouais.
Et si dans un couple, il y avait les mêmes droits entre le père
et la femme,
et ben du coup, on risquait la ruine de la famille. Mmh. Or, la famille, c'est quoi ? C'est la base de la société. Une fois que vous êtes marié, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez transmettre vos biens, et donc tout va bien.
Donc l'homme est actionnaire majoritaire à 51%, donc il peut prendre toutes les décisions.
Exactement. Et il y a même une preuve, c'est-à-dire qu'à cette même époque, si tu étais veuve ou alors que tu étais non mariée, t'avais le droit d'avoir tout ce que tu voulais et t'étais l'administrateur de tes biens. Il n'y avait pas quelqu'un qui gérait tes biens à ta place.
Ouais, sauf que vu que c'était ton père qui choisissait de te marier ou pas, ah putain !
Pour peu qu'il soit parti en guerre ou autre et qu'il soit mort, il y avait quand même des maladies aussi, ça arrivait régulièrement.
Ah, Dieu fait bien les choses. Hein.
Ouais. Voilà que...
cette épidémie de choléra.
Dieu merci, papa est mort la semaine dernière.
Exactement.
Mais est-ce que, juste pour rebondir sur ça, est-ce que, par exemple, si le père il meurt, est-ce que c'est genre, il faut que ça soit un autre homme ? Ou on s'en fout.
Non, t'es dans le droit de la personne. Le code civil, c'est le droit de la personne. Le père, il meurt. Bon, donc, du coup, la femme qui est veuve retrouve toute puissance sur les biens.
Ok, bon, ça, bon.
Elle devait faire une fiesta de ouf.
Il faut juste qu'il y ait une seule personne à la tête du bateau. Mmh. Et dans le cas de. Si c'est entre un homme et une femme qu'il faut choisir, et c'est l'homme qui aura le pouvoir. Okay. Mais par contre, si la femme, elle est toute seule, il n'y a pas de souci, elle gère son.
C'est pas comme l'Arabie Saoudite, quoi. Où
nope.
Ton fils peut être ton tuteur.
Non.
Okay. D'aucuns appelleraient ça problème patriarcal systémique, mais bon.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est sous les mêmes termes. Il y a aussi le divorce à l'époque de la promulgation du Code civil.
Ah bah Napoléon s'en est servi.
Il s'en est servi avec Joséphine, exactement, pour pouvoir divorcer pour consentement mutuel, c'est-à-dire pour, je ne sais plus ce que c'est le terme, mais je crois qu'ils n'avaient pas une compatibilité d'humeur.
Je crois que ce n'était pas très, très consenti mutuellement, mais...
Disons que le mari le voulait.
Oui, voilà, oui, elle, elle a été juste plus répudiée qu'un divorce sans consentement mutuel, je trouve.
Attends, mais il était empereur à l'époque, non ?
Oui, oui, mais elle n'arrivait pas à lui donner un héritier, donc voilà.
Oui, mais en plus, quand ton mari, c'est l'empereur, bon, moi, je pense que pareil, ton consentement est chaud.
Oui, ben voilà, oui, oui, non, c'est clair.
On regardera après, Michel. Hein,
Bon, effectivement, le consentement mutuel était plutôt par le consentement de l'homme que de la femme. Mais il y avait quand même ce consentement mutuel. Il faut penser qu'après, un peu plus tard, avec la Restauration, l'Église qui revient au pouvoir, qui redevient une religion d'État, on perd carrément le divorce, c'est aboli.
Ah la vache !
Ah ouais ?
Ah ouais, c'est un peu violent.
Retour en arrière, quoi.
Ouais, c'est la loi de Bonald, le 8 mai 1816.
Ah, Napoléon... non, c'est Louis XVIII, ce connard.
Ne regarde pas, je...
C'est...
Ouais. Voilà, pardon. Excusez-moi, je l'aime pas.
Je comprends, c'était un peu violent dans la société à ce moment-là. Le divorce, il va revenir qu'avec la loi Naquet en 1884.
Oh,
oh, c'est violent. Et attention, pause, hein. C'est un divorce pour faute. Hein. On ne parle plus de consentement.
Ah, donc adultère.
Exactement.
D'accord, ok. Ah, la vache.
Ah, super glaucose. Bah, j'imagine que attends, les fautes pouvaient être dans les deux sens.
Oui.
Ok.
Mais en fait, si tu veux, le principe, c'est quand même que il fallait que tu puisses transmettre tes biens. Donc, ouais. On était toujours à peu près sûr de l'homme. L'adultère, c'était quand même la femme qui provoquait la chose à l'époque.
Ouais. Ah, bah bien sûr.
Et donc, c'est pour ça que tu pouvais divorcer pour faute.
Ouais.
Et je crois que l'adultère, par exemple, ton mari qui va fréquenter les bordels, je crois que c'est pas considéré comme de l'adultère, étant donné que le bordel est un bien nécessaire à la société, par exemple.
J'ai tellement hâte que tu fasses un sujet là-dessus.
Et t'avais ça, t'avais aussi tout ce qui était séduction dolosive. C'est-à-dire, en gros, t'as promis de te marier. Donc, la jeune fille est arrivée dans ton lit comme ça, mais vous n'étiez pas mariée. Et d'un coup, en fait, il s'avère qu'elle avait déjà une lui avait déjà une femme. Bon, bah là, tu pouvais attaquer. Mais c'était vraiment les seuls moments où la femme pouvait quand même attaquer pour avoir des subsides et permettre en gros, d'avoir de quoi faire vivre son enfant.
Ah la vache.
Oui,
sympa,
ouais, c'est un peu violent.
Ouais.
On n'était pas dans une société très ouverte. Ce qu'on remarque aussi dans le code civil à ce moment-là, c'est qu'on ne fait abstraction totale du concubinage. Ça n'existe pas. Les gens...
Ah, c'est le péché. Quoi. C'est...
Ah bah, au-delà du péché, c'est que c'est une menace pour la société, en fait.
Ah, parce que comme ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entité qui regroupe du coup, cette famille, qui la représente, qui lui donne...
Rien. Donc, t'as pas le concubinage n'existe pas. Tu peux pas vivre ensemble sans être marié. Sinon, tu risques d'avoir des vrais problèmes. Mmh. Et donc, c'est même une menace contre la société. On considère que c'est contre l'ordre social. Putain. Mais on va évoluer quand même. Parce que du coup, après toute cette petite période historique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux révolutions, les révolutions industrielles.
Ouais.
Les révolutions industrielles, elles métamorphosent complètement le paysage de la France. C'est-à-dire qu'on modernise le pays via du coup l'industrialisation. On améliore les transports, hein, c'est essentiellement ça aussi. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est l'exode rural. Les gens, ils quittent les campagnes, ils vont dans les villes. Mmh. Du coup, heureusement ou malheureusement, peu importe, il n'y a pas vraiment de constat, les femmes aussi se mettent à travailler à ce moment-là. Elles deviennent ouvrières. Alors, elles ne gagnent pas des 1000 et des 100. Hein. Mmh.
Mais quand même, avec les machines, elles peuvent être sur les postes de production, etc.
Et donc, du coup, on voit aussi émerger la classe bourgeoise, la classe moyenne et la classe ouvrière. Et tout cet ensemble politique, ça entraîne des modifications de la loi parce qu'il faut s'adapter à la société. Il y a une première loi en 1907, donc c'est pas si vieux que ça, mais en même temps, ça le reste, où on reconnaît que la femme mariée, elle peut bénéficier de ton salaire. Avant, la femme mariée ne bénéficiait pas de ton salaire. C'était reversé à l'homme.
Bah, aucun intérêt de travailler, du coup.
Pas, du coup.
En gros, elle travaillait et son salaire allait dans la poche de son mari.
Ah,
tu vois l'esclavage ?
Ah, la belle époque !
Pareil.
Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Okay. C'est simplement que, généralement, femmes sont, on va dire, plus droites, moins portées sur la boisson, sortaient moins. Et ça permettait d'économiser pour la famille, parce que les hommes, étant plus portés sur le jeu ou la boisson, étaient plus dilapidaires.
Bah, du coup, vu ton constat, j'aurais trouvé ça plus logique de mettre les deux salaires sur le compte en banque de la femme.
T'aurais pu, mais...
Mais qui n'avait vu qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, bon, c'était notre histoire.
Exactement, on va y arriver. C'est la suite de l'histoire.
C'est la faille.
C'est comme bien foutu le patriarcat, on y pense. Putain, ils ont pensé à tout, les mecs.
Oui, ils ont vraiment pensé à tout. Donc cette loi-là, par contre, elle n'est pas intégrée au code civil. C'est une tolérance. Donc, grosso merdo, ça veut dire que...
Ça me fait penser au 1717. Tu es toléré, Michel, toléré, ok.
Non, mais c'est ça. Donc, en gros, c'est-à-dire que le mari qui voulait absolument l'argent de sa femme, il y avait droit. Hein. Mmh. Il faut aussi se remettre dans l'époque. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux guerres, dont la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une perte d'hommes, au sens propre, assez importante. Les femmes ont continué, du coup, à travailler, à remplacer les hommes.
Même plus.
Et du coup, enfin, on est en 1944, on gagne le droit de vote. Non, mais c'est pas si vieux que ça, il faut quand même il faut s'en rendre compte. C'est impressionnant, c'est 1944 où les femmes ont le droit de vote. En 1946, on inclut dans le préambule de la Constitution le fait qu'il y a une égalité des droits entre l'homme et la femme dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'il n'y avait pas d'égalité des droits. Avant.
Alors, ce qui est hilarant, c'est que je ne sais plus dans quel contexte on avait parlé de Olympe de Gé. Oui, dans la déclaration de la... Oui, Olympe de Gouges, c'est une réalisatrice. Excusez-moi. Donc, Olympe de Gouges, qui avait écrit, je crois, un an après la sortie de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui avait tout simplement soit passé au féminin, soit passé au masculin et au féminin les phrases, et elle s'est fait couper la tête.
C'est des choses qui arrivaient.
Ouais, c'est bon, tu vois, bah, pareil, trop en avance. Quoi.
Ça, c'était... Ouais. Malheureusement, c'était monnaie courante.
À peine 150 ans d'avance, et bim, elle perd la tête, alors que là, 46, ça passe tout seul.
Bon. Ça passe tout seul. Mais parce qu'encore une fois, la société a évolué, que la femme a pris une autre place, et que mine de rien, on servait à quelque chose. Mmh. Ensuite, il faut attendre 20 ans. C'est-à-dire qu'on passe en 1965. 1965, c'est la grosse loi qui est intégrée cette fois-ci dans le Code civil sur les régimes matrimoniaux. C'est-à-dire que cette loi, elle consacre la capacité juridique de la femme mariée et l'indépendance au niveau des biens et de la gestion des biens. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? C'est-à-dire que la femme, elle aura d'ouvrir un compte en banque. À ce moment-là, donc en 65, avant, les femmes n'avaient pas de compte bancaire. C'est-à-dire que
vous même avec un accord de l'homme, rien ?
Non, tu n'avais rien. C'est-à-dire que moi, pour avoir interrogé ma grand-mère, par exemple, je lui demandais, mais comment ça se passait dans la vraie vie ? Tu as envie d'acheter un truc, qu'est-ce qui se passe ?
Tu demandes de la thune.
Alors, soit tu demandais de l'argent, et encore, il fallait que tu aies un papier disant que, OK, je l'autorise à acheter une robe. Parce qu'on était un peu dingue. Ou sinon, bah, c'est ce qui se passait dans toutes les boulangeries, boucheries et autres, c'est qu'il y avait des comptes ouverts. Et donc, elles allaient dans les magasins, elles faisaient leurs courses.
Ah, vous mettez sur le compte de monsieur.
Exactement. Et le mari venait régler les frais à la fin, du mois.
Tu parlais d'infantilisation au début, c'est totalement ça, quoi.
Oui, c'est un peu compliqué, à mon avis, dans le quotidien. J'ai du mal. Donc, en 65, quand cette loi est passée, mais toutes les femmes ont été cherchées.
Du pain.
Au-delà de ça, ouvrir un compte en banque pour pouvoir mettre le fruit de leur travail dessus. Ouais.
Mais attends, mais même pour les maris, c'est cool parce que t'imagines à la fin de chaque mois le mari qui doit faire la tournée des commerces pour régler, pour aller payer les trucs de sa zouze.
Oui, bon après, je me sens pas de les plaindre tout de suite là. Je vous dis, de être... c'est vrai, il y a des pires problèmes. Oh, pas cool.
Non, bon, mais si, moi je pense, on parle pas assez.
Très bien, et ben, on se reverra au tribunal.
Et la deuxième chose qui, moi, en tout cas, me paraît dingue, c'est qu'à partir de ce moment-là, que la femme a le droit de choisir sa profession sans l'autorisation de son mari.
Putain de Dieu. Ah, donc quand tu voulais travailler, ton mari pouvait te dire « D'accord, mais tu seras boulangère.
» Tu seras plombier.
Quoi ?
Manutentionnaire. Mec, je fais 30 kilos.
Et si ton mari ne voulait pas que tu travailles, bah, tu n'avais pas le droit de travailler. Quoi.
Mais je ne savais même pas que ça existait, ça.
Eh bien, si. Ah non, mais c'était...
En 65.
Bah, c'est en 65 que tout ça tombe. Hein.
Jusqu'en
donc, avant 65, oui. Alors, dans les faits, je pense que c'était peut-être un peu plus... on va dire que l'application de la loi était peut-être un peu moindre. Les femmes, certainement, travaillaient sans demander à chaque fois l'autorisation.
Oui, mais oui.
Nos pères avaient 17 ans.
Putain.
Ça y est, on vient de se prendre une claque dans le museau. Nos pères avaient 17 ans.
Une claque dans le museau. Bah, cette expérience aussi, on a pris une petite claque dans le museau. Voilà, un petit morceau du passé qui vient de rentrer dans la pièce.
Et du coup, bah, maintenant qu'on a inscrit ça dans le Code civil... Ça veut dire qu'aussi, chaque époux a des obligations envers ménage. Ils doivent chacun contribuer forcément au ménage, puisque chacun a une indépendance financière, à la hauteur de ses facultés. Parce que clairement, on n'était pas encore à l'égalité homme-femme au niveau des salaires non plus. Hein.
Ah bah oui.
On n'y est toujours pas. Donc,
revenons un peu en arrière.
Nos petits-enfants diront, putain, tu te rends compte, en 2019, ils n'avaient pas l'égalité salariale, les bolos. Genre, mamie, elle avait 17 ans, elle se faisait bolos par son patron.
Exactement. Et donc, qu'est-ce qui est introduit dans le mariage ? C'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. C'est la communauté des biens. Mmh. C'est-à-dire que vous vous mariez, tout ce qui arrive dans le mariage derrière, c'est 50-50. Mmh. Par contre, tous les biens, tout ce qui a été acquis avant le mariage, ça reste à chacun des époux. Et chacun en garde l'administration légale de ce bien-là.
Okay.
Et donc, ça, c'est le principe de base. Hein. C'était pour aussi protéger majoritairement les femmes hein, qui gagnaient moins et oui, qui partager plus, on va dire, au niveau du foyer, elle faisait plus l'éducation et autres. Mmh. Et donc, c'est, en cas de divorce derrière, ça permettait, ou de séparation, ça permettait de protéger les femmes.
À la rue et...
Aujourd'hui, clairement, c'est toujours la loi. Est-ce que ça vaut encore le coup? J'en sais rien. Majoritairement, les femmes travaillent, gagnent plus que leur mari ou au moins à équivalence. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par un contrat de mariage en permanence? J'en sais rien. Mais c'est un avis personnel.
Ça se fait de plus en plus. Après, pas en permanence, mais au moins, il y a la possibilité de le faire.
Mais la communauté Osakei, ça serait peut-être en fait le régime qui serait extraordinaire et faire un contrat de mariage, quoi qu'il arrive, à partir du moment où les deux travaillent, on va dire, avec des salaires à peu près équivalents. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le mariage avec l'égalité des époux et donc l'égalité aussi des parents. Ça ouvre à l'égalité des parents. Avant, c'était la puissance paternelle. Mmh. La femme, elle était gentille, elle était là, elle faisait les câlins, elle faisait les bisous aux enfants, mais elle n'avait rien. Elle devait juste obéissance et c'était complètement la puissance paternelle. Donc la notion de chef de famille est très importante. Cette notion, elle va être perdue en 1970. Il y a une loi qui dit on arrête la notion de chef de famille, de puissance paternelle, et on remplace dans tous les textes par la parentalité, l'autorité parentale. Dans les faits, il a fallu attendre quand même 20 ans pour que tous les formulaires administratifs se mettent aux normes. C'est-à-dire que pendant 20 ans, c'était toujours la puissance paternelle,
etc. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que légalement et administrativement parlant, ce qui représentait la famille, c'était tout le temps le père et...
Bien sûr, mais ce qui a été le cas encore très dernièrement, je veux dire, dans les écoles, dans tout ça, la première personne, c'était le père. Il n'y avait pas parent 1, parent 2.
Oui, oui, tout à fait. Ouais,
c'est père, ça, mère, ça. Et c'était le père qui arrivait en premier. Il n'y avait aucune égalité. Mmh. On arrive quand même à une parentalité. On n'est pas encore à la coparentalité, mais au moins, chaque époux a de l'autorité parentale sur ses enfants.
Et puis là,
petit progrès.
Ce dont tu parlais avec le parent 1, parent 2, où j'explique aux personnes qui n'ont pas forcément suivi ça, mais c'est une proposition qui a été faite pour changement des formulaires administratifs. Ça parle aussi au côté justement plus moderne des familles recomposées, etc.
Exactement.
Et sans parler des familles homoparentales, ce genre de choses. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais dans le fait que la société influence l'évolution des lois.
Parce qu'on est complètement puis on est en 70, il faut se rappeler que 68, c'est la libération aussi sexuelle, que du coup, la société se métamorphose vraiment. Mmh. Les gens ne pensent plus comme avant. Et vraiment, il y a aussi une modification de ce qu'est la famille à cette époque-là. Et du coup, il fallait absolument adapter les lois pour qu'on puisse continuer à protéger la famille, quoi qu'il arrive. Il faudra attendre quand même 85, donc c'était il y a 34 ans, pour que le mot époux remplace le mot femme ou homme ou mari ou femme. C'est-à-dire que le code civil, maintenant, c'est plus que les époux. Il n'y a plus de distinction de genre. Mmh. Là, à partir de ce point-là, on peut se dire qu'il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les gens qui pensent que le mariage est un acte indissoluble et les gens qui voient que ça comme un contrat établi entre deux personnes. Et à partir du moment où certaines obligations ne sont plus suivies, le mariage tombe. Et donc, c'est... à ce moment-là, en 75, donc c'est aussi très récent, qu'on réintroduit quoi ? Les 3-4 divorces. Avant, c'était que le divorce pour faute, avant 75.
Oh la vache. Allez, putain.
Ah bah oui ! Ah bah oui !
Putain.
Donc en 75, on se dit...
Le mec a dû dire, oh putain Michel, on a oublié un truc là.
Mais ça va avec 68, avec le fait que les gens se séparent de plus en plus. Va te taper à prouver la faute à chaque fois de l'adultère ou du manque d'obligation envers un tel ou un tel.
Envie,
c'est l'enfer.
Quoi,
c'est l'enfer en vrai, dans la vraie vie, c'est l'enfer. Donc du coup, en 75, on réintroduit les 3 cas. Le consentement mutuel, bon, il n'y a pas de problème, les deux sont d'accord. Si il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, c'est ce qu'on appelle la rupture de la vie commune. Alors attention, ça veut dire que vous vivez séparément, qu'il y a un des deux époux qui ne veut pas divorcer, il faut attendre 6 ans pour le faire contester par un juge et pour prononcer le divorce. Et enfin, le 3e cas, c'est toujours le divorce pour faute. C'est pour violation grave et renouvelée des droits et obligations relatif au mariage.
Qui est grave et renouvelé. Genre, il m'a trompé une fois. Eh ouais, c'est pas renouvelé.
Eh ben non, c'est pas renouvelé, c'est un petit coup de canif au contrat.
Oh la vache.
Il faut aller prouver qu'il y a, typiquement, qu'il y a eu plusieurs fois adultère et autres, pour que tu puisses avoir une rupture pour faute.
C'est clairement l'excuse de. Non, mais c'était une fois au chalet.
Oui. C'est exactement ça.
Mais il me semble que 75, donc toujours la même année, je parlais de ça dans une visite guidée. Il y avait une loi qui a été abolie cette année-là, qui disait que dans le cas où un homme constate un adultère en rentrant chez lui, donc de sa femme avec une autre personne, et en gros, ça se termine par le meurtre commis par ce dernier sur les deux personnes est excusable.
Parce que
mon Dieu. Et j'essaierai de le retrouver si ça t'intéresse.
Ah ouais,
Mais je crois que c'était la notion de crime passionnel qui a été créée pour ça. ouais. Où le crime passionnel est une catégorie à part entière.
Mais ça veut pas dire que c'est pas condamné. Mais j'adore juste le truc est excusable. Ah. Ça veut dire que c'est traité avec une grande légèreté par les tribunaux. T'es là, ah ouais.
Ça passe.
Et l'inverse, c'était vrai ou pas?
Pas convaincu.
Non, ça parle du mari, le texte que j'ai vu.
C'est dingue. Ouais. Moi, je trouve ça dingue.
Ouais, je trouve ça complètement dingue aussi. Ouais.
Les hommes, ils fautent jamais. C'est bien connu.
Bien évidemment. Ouais. Je suis crue, je suis une femme, mon Dieu. Donc maintenant, on passe aux années 90. Donc on est quand même, on a fait déjà un...
J'ai peur de ce que tu vas nous
sortir. Ouais, mais c'est flippant. Hein. Ouais. Dans les années 90, on n'a toujours pas réglé le problème du concubinage, alors que, à partir des années 70-80, il y a un nombre de couples qui vivent ensemble en ayant des enfants, sans être mariés, en fait. Et bien, du coup, ça posait des vrais problèmes au niveau de l'héritage. Enfin, de plein de choses. Rien n'était réglementé. Donc, il faut attendre 90, et notamment la loi de 93, pour aborder la notion de concubinage. Et attention, on ne parle pas encore de concubinage. En 93, on consacre simplement le principe général de coparentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un enfant, que vous vivez ensemble, que vous reconnaissez l'enfant dans l'année de sa naissance, vous avez tous les deux, homme ou femme, les mêmes droits sur cet enfant-là.
Et donc, c'est que 93?
Ouais, c'est que 93.
Mais ça s'est passé comment pour mes parents, alors, moi, quand je suis née? Parce que moi, je suis un enfant du péché, tu vois.
Ils étaient pas mariés.
Hérétique.
Je comprends bien.
Il n'y en avait qu'un des deux qui avait des droits sur moi?
Non, alors, en vrai, tu avais quand même le livret de famille qui prouvait que tes deux parents t'avaient eu et que, tu étais bien l'enfant de tes parents.
Les sextapes aussi. Hein.
Alors, je crois que Camille ne va plus dormir pendant une semaine.
Et j'ai fait aussi, j'ai fait fi de certaines lois qui sont apparues au fur et à mesure. On en revient sur l'ADN et autres qui ont modifié le fait de pouvoir retrouver son géniteur aussi. Donc, pour tous les enfants qui étaient soit illégitimes, adultérins, ou alors issus d'un mariage et dont c'était pas vraiment le père, hein. Ou alors justement les enfants issus du concubinage, il y a quand même eu des droits et des lois qui sont passées pour reconnaître leurs droits dans la vraie vie. Et là, ça faisait vraiment trop long, sinon si je devais aborder en plus tous les aspects de la filiation. Donc du coup, c'est pour ça que 93, c'est vraiment la loi qui permet, qui est intégrée au code civil, qui permet vraiment de dire, bah oui, ok, on a eu un enfant ensemble, ils ont les mêmes droits au niveau de l'héritage et du reste. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que le juge des affaires familiales remplace le juge des affaires matrimoniales. Donc c'est à ce moment... Ah ben oui, ça a toute sa petite subtilité.
Un foyer n'est plus qu'une, enfin n'est pas qu'un mariage.
Voilà, exactement. La famille n'est plus issue que du mariage. La famille, ça peut être aussi issue de l'amour de deux personnes qui ont créé ou pas un enfant. Et c'est le juge qui peut destituer aussi l'autorité parentale. Avant, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire que souvent, quand les gens se séparaient, pour que la mère récupère l'enfant, c'était pas si simple que ça. Donc du coup, voilà, on est en 93. On voit vraiment qu'il y a un changement radical dans la société, puisque du coup, les gens peuvent ne pas être mariés, avoir des enfants, faire une famille, comme on l'entend, transmettre leur héritage. Et du coup, ce qui était le concubinage, qui était une menace pour la société, est complètement intégré aujourd'hui à la société. Et qu'est-ce qui se passe après en 1999? Alors pour moi, parce que je suis un peu plus vieille que vous, ça me parle vraiment.
Le Pax ?
Exactement.
Ah, je crois que c'était les 1 an de la Coupe du Monde.
Ouais, moi aussi.
Ouais, tu... aussi. Mais non, la loi du 15 novembre 1999, qui met en place et qui crée le pacte de solidarité
civile. Je pensais que c'était encore plus récent que ça.
Ouais, 99 quand même.
Je ne sais pas. Je te rappelle que je suis en France que depuis 2009.
Oui, pardon, mes excuses. Mais enfin, si tu veux, le Pax, c'est la première fois qu'on inscrit dans le Code civil, parce que du coup, c'est l'inscription dans ce Code civil, et qu'on réglemente et qu'on législative autour d'une union qui est hors mariage.
Qu'on reconnaît en quelque sorte une forme de légitimité au couple non marié.
Complètement honorable.
Ça n'a pas du tout été créé pour les homosexuels.
Alors, j'en arrive, c'est... Oui, bien sûr que si, bien évidemment, mais on va en arriver là-dessus. Magique. Mais c'est surtout aussi pour permettre que ce droit des personnes soit applicable à n'importe quelle typologie de personnes et n'importe quelle...
N'importe quelle famille, en fait. Ouais.
Et du coup, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, cette loi-là, elle a un vrai impact sur la société, c'est qu'on légalise, effectivement, et on rend licite...
Des unions civiles
homosexuelles, entre deux hommes ou entre deux femmes.
Moi, j'ai cru que c'était vraiment pour ça qu'on a fait ça.
Alors, c'était vraiment pour aider aussi, bien évidemment, les unions homosexuelles, pour leur rendre aussi la vie plus facile, pour protéger les partenaires l'un et l'autre. Mais... ce n'est que, je ne pense pas que ça a été défendu comme ça à l'époque, je pense que ça a été défendu aussi pour légitimer le concubinage et pas forcément l'homosexualité qui était encore un peu touchy.
Les gens commençaient à se battre, mais voilà.
Il ne faut pas oublier que ces règles, elles ne sont pas là. Enfin, le but, ce n'est pas juste de les décrire pour le fun, mais elles sont là aussi pour aider, justement, comme tu le disais, ces personnes dans leur vie de tous les jours. Parce que pour avoir un compte commun, avoir des trucs comme ça et tout, c'est beaucoup plus pratique. Donc, le fait de reconnaître que okay, dans la société, il y a ce type de couple, donc il y a besoin de ce type d'union pour pouvoir faire les démarches.
Et... Mais même quand tu es au moment du décès, enfin, ne serait-ce que pour transmettre ton patrimoine et puis ton héritage,
par exemple, ouais.
C'est le seul moyen de le faire. Après, le Pax ne protège pas autant que le mariage.
Non,
c'est pas la même typologie de contrat, mais du coup, ça permet quand même d'inscrire, de faire des testaments qui sont mieux reconnus aussi, via notaire et autres. Mais voilà, c'est une vraie forme maintenant d'union qui est dans la société et reconnue par la société. On voit aussi une modification dans la position de l'homme et de la femme via une loi de 2002 qui est sur justement l'autorité parentale et qui permet aux parents de choisir le nom de l'enfant. Soit de prendre le nom du père, soit de prendre le nom de la mère. Avant, ce n'était pas possible.
Ou un mix des deux.
Automatiquement le père.
À défaut, alors c'est d'un commun accord. Hein. Si tu n'es pas d'accord, c'est quand même le père qui prend automatiquement, qui donne automatiquement son nom plutôt. Oui. Mais c'est là où on voit que vraiment les mentalités changent, parce qu'avant, ça ne serait jamais vu dans la société qu'on prenne le nom
C'était
de
la
journée
déjà d'avoir que des filles, parce que justement, ta lignée allait disparaître.
Entre perdre son nom. Ouais. C'est tout à fait ça. Et en plus, c'est aussi, cette loi, elle réglemente aussi les séparations. Donc ça réglemente. La garde alternée pour les enfants en cas de divorce ou de séparation. Avant ça, il n'y avait pas grand-chose qui permettait de cadrer ce mode de vie-là. Or, effectivement, le mariage aujourd'hui veut dire aussi divorce derrière. Mmh. Pas forcément, j'espère bien que les gens qui vont se marier le resteront pour toute leur vie, mais c'est un cas, c'est une potentialité, et idem dans le concubinage. La séparation est complètement intégrée aussi à la société. Et là, on n'est qu'en 2002, hein, c'était il y a 10 ans. Avant ça, en gros... C'était vraiment le caca quand on se séparait. Quoi.
C'était les tout début de Laurie pour te situer, Camille.
Ah oui, merci.
On arrive en 2004. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en 2004.
Les L5.
Ouais, le L5, peut-être, je ne sais pas.
Jennifer ça.
Non, en 2004, il y a Noël, ma mère, il a fait quoi? Eh bien, il a marié le premier couple de deux hommes.
En 2000, combien?
2004.
Ah oui.
Et donc, bien évidemment, ce n'est pas passé, hein. Ça a été attaqué, etc. Ah bah oui, ça aurait été trop simple sinon. C'est pas passé. Et par contre, c'est à cette occasion que les pouvoirs politiques, notamment le PS, ont remis le couvert sur justement l'homosexualité qui était encore pas admise en termes de mariage, en tout cas. Mmh. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement discriminés par rapport au mariage, en disant qu'il faut faire évoluer la loi en termes de conjugalité et d'homoparentalité. Parce que jusqu'à cette époque-là, en gros, ils pouvaient adopter simplement s'il n'y avait qu'un conjoint. L'autre parent n'avait rien. Mmh, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Mmh. Et donc, 2004, le premier mariage. Bien évidemment, ça a foiré parce que ça a été attaqué de toutes parts. Du coup, ça a été annulé par la Cour de cassation en 2007. Mais ça avait au moins l'avantage d'avoir ouvert le débat politique en France. Il faut attendre le 28 janvier 2011 pour que le Conseil constitutionnel soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le mariage homosexuel. Là, le Conseil constitutionnel dit « Moi, je ne vois rien dans la loi qui l'impose ou qui l'interdit. C'est au législateur de prendre le sujet en main et de pouvoir dire si oui ou non on peut faire des mariages homosexuels. » Donc, il y a eu la même année, en juin, il y a eu un texte de loi qui a été présenté devant l'Assemblée. Il n'a pas été acté. Ce n'est pas passé. Il y a eu 293 voix contre et 222 voix pour. Mais par contre... On se souvient que la même année, il y a quoi ? La préparation aux élections présidentielles. Ah. Et donc, du coup, notamment François Hollande, qui en a fait une de ses promesses de campagne. Plus derrière, un certain nombre de manifestations qui ont été importantes pour le mariage pour tous. Et donc, du coup, ça a permis de mettre... Les médias ont pris vraiment ce sujet en main et l'ont mis en lumière. Parce qu'avant, on en entendait très peu parler. Accessoirement, nos petits copains européens avaient déjà accepté pour un certain nombre de pays le mariage homosexuel.
C'était le début de la vague et on était clairement à la bourre.
Ouais. Clairement, comme sur beaucoup de choses en général. Mais oui, on était complètement à la bourre. Et donc, le 7 novembre 2012, donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps, le ministre de la Justice présente au Conseil des ministres le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, pardon, donc le mariage pour tous, et l'accompagne de la notion d'adoption. C'est-à-dire que les homosexuels pourront soit adopter l'enfant qui avait été déjà adopté par le premier partenaire ou adopter à deux à partir de ce moment-là. Mmh.
Case quand même très très difficile
aujourd'hui. C'est clairement, c'est vraiment très compliqué, mais au moins
il y a quelque chose dans la loi qui permet de faire valoir ses droits. On arrive en janvier 2013, où là, le texte est débattu. Il y a plus de 5000 amendements quand même à ce texte-là qui ont été posés par l'opposition. Et du coup, il faut attendre le 17 mai 2013 pour que la loi soit promulguée, parce que le Conseil constitutionnel la reconnaît et la reconnaît légale. Et c'est qu'à partir de mai 2013 que les gens qui veulent se marier, homosexuels, peuvent se marier. Le premier mariage, je crois que ça a lieu le 29 mai, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir aussi sur le mariage homosexuel, c'est-à-dire qu'on voit la société qui l'accepte de plus en plus au niveau des baromètres. C'est-à-dire qu'en 2004, il y avait 50% en gros de la population qui était d'accord pour le mariage pour tous. On arrive en 2011, on passe déjà à 60% de la population, c'est-à-dire que c'est complètement accepté. Mmh. Et on arrive en 2013, on est à 66%.
Il reste encore une... Complètement, pas vraiment, parce que là, il y a 40% quand même, c'est 40% qui nous font chier.
Oui. Perpétuellement. Ouais, mais tu auras toujours, mais c'est ça le débat, tu auras toujours du pour et du contre, sinon tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et en 2015, et c'est à peu près stable, c'est aujourd'hui c'est entre 67 et 70%. Par contre, pour l'adoption, c'est carrément un autre débat. C'est carrément plus compliqué.
Il y a la PMA qui commence un peu.
Ça va prendre du temps, je pense. Hein.
Ouais. Donc il nous a fallu tout ce temps-là, quand même, pour arriver à une parfaite égalité. Il y a un choix qui est quand même assez grand sur les unions. Et c'est parce que la société a évolué qu'on a réussi à faire aussi évoluer le mariage et à faire évoluer les lois qui les accompagnent et qui réglementent en fait le droit des personnes.
Merci. Trop bien, merci.
Super
franchement,
intéressant,
ultra
intéressant. Chapeau.
Ouais.
Top. Ça me fait toujours aussi mal au cœur d'entendre à quel point on a mis du temps à faire évoluer certains trucs. Mais écoute, il faut bien avancer. Mais très chouette en tout cas. Merci beaucoup.
Ouais.
Et du coup, est-ce qu'on ne passerait pas au...
Changement d'ambiance.
Un petit peu, oui.
Mais qui sont toutes ces femmes ?
Les musulmans sont les seuls qui aient fait montre d'un peu de logique dans cette fameuse question des rapports entre les femmes et les hommes.
Moi j'en ai marre que tu confondes libre et heureuse.
Si j'avais un harem, vous seriez ma favorite.
Eh ben,
j'en
nickel.
Ai marre que tu confondes libre et heureuse.
Nickel.
Ah ouais.
Allez, vas-y, à toi.
Bah, je crois que tout a été dit avec ce jingle. Allez. Alors non, oui, j'ai eu très très envie, je sais pas, ça m'est venu sur un coup de tête de vous parler des harems. Sauf que des harems, il y en a eu plein d'époques. Donc j'ai décidé de me concentrer uniquement sur
les harems globetrotters.
le harem du sultan pendant l'Empire ottoman. Si je vous dis harem, ça vous évoque quoi ? À quoi ça
veut dire femme ?
Ouais.
Un peu le luxe, l'opulence.
Aussi.
Ouais, la légèreté.
La restriction des droits des femmes, quoi.
Oui,
aussi. Mais,
j'ai regardé, justement, parce que tu ne m'avais pas donné trop d'indices pour ton, pour ton sujet, du coup, j'ai regardé la définition de harem, et c'était justement un truc où j'étais assez choqué, où c'était justement la liberté des femmes ou un truc comme ça. Non ?
Ah, non ?
Eh ben, tu partages la source.
Le mot harem viendrait vraiment du nom du mot interdit en arabe.
Ah, d'accord. Haram.
Ouais.
Ok.
Voilà, ce serait une dérive de ce mot-là, parce que c'était un espace dans lequel il était totalement interdit d'entrer.
Bah, du coup, comment on pouvait rentrer ?
Ah oui, non, j'ai pas du tout lu ça.
Tout le monde n'y va pas. Ah, bon, okay. On va y arriver. Donc, les harems des sultans de l'Empire ottoman, c'est quand même en général le plus gros harem qui existait, hein, ils vont durer donc, du 15e au début du 20e siècle. Hein. Le dernier harem de l'Empire ottoman, il ferme un petit peu tard.
Ça va.
Ouais, début du XXe siècle, c'est même archi tard.
C'est carrément tard.
Et donc, dans le harem du sultan, il y avait, selon les époques, entre 500 et 1500 femmes.
Quoi ?
Eh ouais !
1500 !
1500 ! Oui, ça n'est plus où donner de la tête, le gars !
Bah, pas que de la tête.
Ils mettent tout ça au même endroit. Enfin...
Ça ?
Non, mais tout ça, tout.
Wow.
Hicham, ami des femmes.
Non, mais ils mettent toutes ces femmes au même endroit.
Oui, vous allez voir, ça a bougé un tout petit peu, mais oui, en général, elles sont au même endroit.
C'est un camp UCPA de ouf, quoi. Enfin...
Ah bah c'est le Club Med.
C'est Pontarlier, quoi.
Non, Pontarlier, c'est 17 000 habitants, je crois, ou 14 000.
Ah, ça fait beaucoup.
Voilà, donc le but, en fait, du harem, c'est dans cette période où il y a énormément de maladies, énormément de morts infantiles, d'assurer la descendance, quoi qu'il arrive, et la pérennité de la dynastie en ayant des enfants. Et pour avoir des enfants, il vaut mieux avoir plusieurs épouses. 1500 ne serait-ce pas un peu capillotracté, je ne sais pas.
Je sens que c'est inquiet, quoi.
Mais voilà.
On ne sait jamais. Plante des graines. Puis après, tu feras des pois. Enfin, je t'explique.
Et il s'agissait de femmes qu'on voulait jolies, parce que bah, forcément, elles devaient engendrer le futur sultan, donc il fallait qu'il ait quand même un peu de swag. Gènes. Voilà, et de préférence, intelligentes et cultivées, parce que c'était elles qui éduquaient le fils qui serait un jour le sultan. Mais tout ça, on y reviendra. Donc, d'où est-ce qu'elles viennent, les femmes qu'on peut trouver dans le harem, par exemple, d'Istanbul ? Parce qu'en fait, le sultan de l'Empire ottoman, il a un harem en général par résidence principale. Après, il n'a pas énormément de résidences principales non plus. Il doit en avoir c'est deux ou trois. Mais il a un harem. Mais les favorites du harem le suivent, en fait. Je ne sais pas comment vous dire.
Ok, ouais, je vois. Il a sa garde rapprochée, en gros.
Voilà, qui suivent. Et donc, les femmes qui sont dans les harems, d'où viennent-elles ? Et bah, tout simplement, c'est soit des cadeaux des femmes. Alors, c'est que des esclaves. Elles ont toutes le statut d'esclaves.
Ah, c'est vraiment que des esclaves.
C'est que des esclaves et donc des non-musulmanes, étant donné qu'on n'a pas le droit de réduire en esclavage quelqu'un qui a la religion musulmane. Donc, ce sont que des femmes non-musulmanes, soit des cadeaux de chefs d'État. Ah bah tiens, je t'offre Cindy, ma voisine, tu vois. Soit, et ça c'était la majorité des cas, des femmes qui ont été enlevées lors de raids en fait, notamment en équivalence de l'actuelle Ukraine, Pologne, voilà, Europe de l'Est et Europe centrale, où là il y avait les Tarars, à ne pas confondre avec les Tartares.
Les Tarars.
voilà. Non,
oui,
parce que...
genre...
Non, parce que souvent on peuple un petit peu, on pense aux tartares, mais là c'est les tarares.
Ah, moi, je pensais
Ah oui, non.
Confond pas non plus avec le taramar, c'est différent.
Ok, bon, on va pas la garder celle-là. Donc on disait les tarares.
Voilà, qui allaient faire des raids en fait dans des villages. Ils allaient enlever tout un tas de jeunes femmes, de préférence assez jeunes pour qu'on s'assure qu'elles soient bien vierges. Et ensuite on les revendait de marché en esclave en marché aux esclaves. Et les plus jolies pouvaient espérer être
avec des énormes guillemets,
finir dans un endroit pas trop dégueulasse, à savoir le harem du sultan, parce que je pense que c'était peut-être le moins pire qui pouvait arriver.
Quitte à être une esclave, c'est pas bien, mais bon, c'est pas
exactement pas bien. Donc elles étaient vendues et elles pouvaient arriver au harem de Istanbul. Donc Istanbul. Voilà, le harem au début est au centre-ville et ensuite je crois qu'il va y avoir un souci, il va prendre feu, il y a une connerie et tout. Donc ils vont déménager le harem effectivement au début du XVIe siècle dans le palais de Topkapi. Et vous pouvez encore aujourd'hui visiter le harem du palais de Topkapi si vous visitez Istanbul. Donc il y a au harem, en fait, on imagine énormément en fait, des tas de nanas quasiment nues toute la journée, qui sont au sauna, entourées de nuques, en train de s'éventer comme ça, en train comme ça de mettre la main comme ça dans l'eau de la piscine en disant elle est un petit peu trop chaude. voilà, de se faire de la manicure. Non, mais c'est vraiment l'image qu'on en a par les peintres. Mais par les peintres orientalistes du 19e siècle.
Vrai, oui.
C'est on nous présente des nanas qui passent leur journée uniquement à s'occuper de leur corps et qui foutent rien. Quoi.
Alors que non, elles faisaient des travaux, qui faisaient le carrelage, Bastel.
Bah oui.
C'est vrai ?
Ah bah bien sûr, justement, on va y venir. Mais en réalité, t'es plus dans une ambiance de cloître et avec vraiment un emploi du temps qui est archi strict, qui est archi rigoureux et ça déconnait pas du tout au harem, quoi. C'était clairement pas des vacances d'été, sauf pour quelques heureux élus. Mais vous allez voir que ça en concernait vraiment une toute petite majorité. Les autres, elles douillaient leur race.
Toute petite partie.
Ah oui, une toute petite minorité, pardon. Non, pardon, une toute petite minorité, autant pour moi. Donc déjà, il y a une hiérarchie dans le harem. Une hiérarchie qui est bien vénère, qu'il faut énormément respecter.
Et ça se conçoit comment, la hiérarchie ?
Alors, je vais vous l'expliquer. Vous avez... je ne vous parlerai pas du sultan, en fait, dans le harem, parce que le sultan, il vient, il fait ses petites affaires avec ses favorites, il vient voir ses enfants à la rigueur, et il se casse. Mais le sultan, il intervient rarement dans les histoires du harem. En réalité, la vraie chef du harem, c'est celle qu'on appelle la sultane validée, et elle, c'est la reine mère. En fait, c'est la mère du sultan.
Ok. Ah,
c'est la mère du sultan.
Ambiance.
Voilà. Et donc c'est la mère du baiseur qui s'occupe de toutes les maîtresses de 16 ou 12.
Ah, c'est glauque.
En gros, c'est souvent elle qui choisit celle qu'il faut mettre un peu en avant. Et c'est la chef d'orchestre. Et souvent, elle est pas très sympa.
Mais elle est pas intégrée au harem.
Elle est dans le harem.
C'est oui,
dans,
non, mais
c'est une ancienne esclave. C'est une ancienne esclave. Ah. Elle est passée par là, mais elle a monté en grade.
Oui,
et elle est la mère. C'est la mère du sultan. Donc
mais c'est
souvent...
pas vraiment sa mère. Enfin.
Bah, si. Mais si, mais parce que vu que les courtisanes, elles baisent avec le sultan, bah quand elles font un enfant, elles deviennent la mère du prochain sultan.
Bah oui.
Ah, du prochain. Bah
oui. La mère du sultan. Du coup, c'est elle la chef du harem. C'est pas son épouse.
Parce qu'un jour, le prochain sultan devient le sultan courant.
C'est pas.
Voilà. Ilyas, il ouvre un harem, c'est sa mère qui sera la tête du harem. Voilà.
T'es en train de te mettre de pute, là, non?
Et attends, excuse-moi, t'as parlé de Catherine et de ses sextapes. Je te rends la monnaie de ta pièce.
Ok.
Coucou, maman d'Ilias.
Ah, elle nous écoute en plus.
Ouais, eh oui, coucou aussi, Catherine.
La mienne aussi, donc voilà. Et donc, du coup...
Elle est contente. Hein. Mais vas-y, continue, hein, assume. On va perdre une auditrice, hein, c'est tout. Vas-y.
Mais non, mais j'aurais pu vas-y, dire assume. Avec n'importe qui. Mais fallait que je parle d'une maman, on parle de maman. Voilà.
Et donc,
cette sultane validée, elle a absolument tout pouvoir tant que le sultan, son fils, est en vie.
Oh, t'aurais crevé, hein.
Voilà. Si son fils meurt avant elle, on l'envoie à la maison de retraite des harems. Ouais, où apparemment c'est un mouroir où l'ambiance elle est pas folle quoi.
C'est un EHPAD quoi.
Elle attend la mort quoi. Ouais, c'est un peu
c'est un EHPAD.
La terre est un peu froide. Non, mais...
Et elle perd du coup tout son pouvoir. Je pense qu'elle peut avoir éventuellement une pension qui va être versée par son petit-fils, mais voilà, ça s'arrêtera là quoi. En dessous d'elle, il y a les épouses officielles. Donc selon la réglementation, le sultan a le droit d'en avoir maximum 4. Je crois que c'est le maximum autorisé par l'islam de toute façon.
Je ne me regarde pas, je ne sais pas.
Mais je ne sais pas, je te demande.
Je sais pas.
Mais j'ai dit peut-être une bêtise, mais en tout cas, voilà, le sultan il peut avoir 4 épouses officielles. Et même entre elles ont une hiérarchie. Ah. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est pas à celle qui a été mariée la première. Alors, comme elle
peut être détrônée.
Non, c'est à la première qui donnera un fils, en fait.
Ah. Vite
voilà. Celle qui donne naissance au premier fils...
C'est le premier héritier, du coup.
Exactement, c'est la basse Aseki. Et donc, elle a quand même masse de pouvoir parce qu'elle a 90% de chance d'être la prochaine sultane validée, en fait, à la mort de son mec, en fait. C'est elle qui a tout pouvoir parce que c'est son fils qui monte sur le trône, en gros. Juste en dessous, il y a les Aseki Sultan. Donc, elles, c'est celles qui ont donné des fils, mais un petit peu trop tard.
Aseki, qui est quoi ?
Aseki Sultan.
Ça veut dire ?
C'est
celle d'après, quoi.
Je sais pas.
Ok.
Voilà. Mais c'est celles qui ont donné des fils, mais des seconds, des troisièmes, des quatrièmes fils. Et enfin, en épouse officielle, il peut avoir une Aseki Kadin. Et donc, ça, c'est celles qui vont donner des filles.
Ah.
D'accord.
Voilà. Alors, elles, d'ailleurs, c'est les seules à pouvoir se remarier à la mort du sultan. Comme elles ont donné que des filles au sultan, elles auront le droit à la mort du sultan de quitter le harem et de se remarier.
Ah, donc c'est pas forcément un plan foireux. Tu peux te dire genre, il y a une chance. Ouais,
t'espères que c'est une fille, tu sais, ou le premier fils. Voilà, c'est soit t'es en tête de liste. Voilà.
Est-ce que la Asekil, enfin celle qui a des filles, le sultan, le premier, il a une fille.
Ouais.
Et. Non, est-ce qu'elle peut devenir la
valide sultane ?
Non,
il faut avoir un fils.
Oui, mais si après elle a un fils.
Si elle est la première à avoir un fils.
Donc, c'est vraiment le premier qui a un fils.
C'est la course au fils. Okay. C'est vraiment la course au fils. Et en fait, donc, dans ces trois cas-là, c'est-à-dire si on donne un enfant au sultan, le sultan peut donc décider de t'affranchir, de te convertir à l'islam. Et de t'épouser. Et là, tu deviens une épouse officielle. Mais en gros, à part le statut d'officielle, tu restes une meuf qui reste enfermée dans le harem jusqu'à la fin de ta vie. C'est juste que tu nettoies plus le carrelage. Mais voilà, mais tu restes une nana qui ne sortira pas du harem. Et donc ça, il peut le faire avec 4. Mais comme il peut très bien choisir de ne pas le faire. Mais en général, la première nana avec qui le sultan va coucher dans le harem, qui va lui donner un fils, très souvent, il va l'épouser quand même. Voilà. Mais il y a des nanas qui sont restées esclaves, mais qui ont quand même donné des enfants au sultan parce qu'il avait déjà 4 femmes et donc il pouvait pas se remarier.
Il peut les répudier ou autre ?
Non, du tout, c'est juste qu'elles restent dans le harem et puis elles servent à rien, quoi. Elles ont des enfants.
Sympa.
Voilà. Alors, juste en dessous, du coup, en dessous des 4 épouses officielles, c'est toutes des esclaves.
Ok.
Voilà, qui ne sont pas affranchies et qui, du coup, ne sont pas musulmanes, mais il y a quand même une hiérarchie parmi ces esclaves.
Et puis une utilité pour le sultan, parce que sinon, ça ne sert à rien, à part de coucher.
C'est-à-dire ?
Elles font tourner la maison.
Oui.
Okay.
C'est, voilà, elles s'occupent de toutes les autres. Elles s'occupent des enfants, elles font tourner la maison, quoi. Ouais, voilà.
1500 employés, ça fait une bonne PME déjà.
Et tu vas voir, en fait, il y a aussi. Enfin, je vais y venir, mais si, ils s'en servent aussi pour d'autres choses, tu vas voir. Donc, déjà, il y a la trésorière du harem. Elle, c'est un poste super envié, en fait, parce qu'elle, il y a peu de chances qu'elle saute. En général, de la mort d'un sultan à un autre sultan, souvent, c'est elle qui reste. Et donc, elle, c'est elle qui administre vraiment tout le harem. Et c'est, voilà, c'est un poste à la cool, il y a peu de chances d'être répudié, enfin on est bien. Et en plus, on ne couche pas avec le sultan, donc on n'a même pas besoin de subir...
C'est une administratrice, quoi, globalement.
Voilà. C'est, donc, elle, souvent, elle a son petit appartement au calme et tout. Voilà, elle est bien. Voilà, la trésorière, elle est bien.
C'est la comptable.
No job in job pour elle.
Il y a les concubines, donc c'est les esclaves qui couchent, qui ont été repérées, c'est les favorites, en fait, qui ont été repérées par le sultan, mais qui n'épousera pas. Donc elle, leur place, elle est un petit peu instable, parce que le jour où il n'a plus du tout envie de coucher avec toi, bah, tu repars tout en bas de l'échelle.
En gros,
il y a les remarquées. Alors les remarquées, en fait, c'est celle où le sultan il fait, elle est pas mal, elle. Mais avec qui il va jamais coucher. Donc elles, pareil, elles attendent, elles ont l'espoir.
C'est ouais, c'est les U17 du foot, quoi.
Parce qu'en fait, ouais, si elles ont l'espoir, c'est parce qu'il y a justement cette hiérarchie et que plutôt dans la hiérarchie, plus t'as de pouvoir et donc de
mais
confort.
Mais bien sûr.
Ouais. Donc c'est pas juste genre, oh j'ai trop envie de le ken, c'est bon bah si il me ken, bon bah.
Putain, on dirait les cérémonies des Molières, l'espoir féminin décerné à.
Il y a un tout petit peu moins d'abus sexuels dans les Molières, mais pas beaucoup, mais un petit peu.
Et le pire du pire, c'est les dernières, c'est les odalisques. Ah, vous savez, il y a plein de tableaux qui s'appellent comme ça au Louvre, les odalisques de Ingres, de machin. Ça représente des nanas toutes nues, souvent toutes seules, de dos sur des grandes banquettes. Bah, si vous allez au Louvre, ça vous parlera peut-être. Et en fait, les odalisques, c'est vraiment le bas des esclaves. Elles n'ont même pas été remarquées. le sultan, il les calcule pas. Et elle, c'est nettoyée, balayée, astiquée, harem toujours pimpant, quoi. C'est vraiment le quotidien de leur vie.
Nickel.
Pardon, c'est pas drôle. Et donc, elles sont les plus nombreuses, en fait. Elles représentent 90% du truc, tu vois. Voilà.
Et donc, elles se rebellent, elles pourraient défoncer tout le monde.
Et elles vont être servantes des autres, etc. Et il y a enfin l'école du harem, parce que toutes ces jeunes femmes, en fait, elles ont la possibilité d'aller dans l'école du harem. Donc, bien sûr, c'est les plus jolies qu'on va essayer d'envoyer à l'école du harem. Et elles vont recevoir une éducation oufissime. Et certaines, le sultan va décider de les convertir et de les affranchir pour les marier de force, mais à des officiers. Ou à des ministres, quoi. Ben non, okay. mais par contre, c'est l'espoir de sortir du harem, en fait.
Pour être esclave de quelqu'un d'autre.
Bah, en tout cas, de sortir.
Plutôt le fun, hein.
Ouais, archi fun. Ouais. Non, mais vous voyez, on est super loin de l'ambiance super cool qu'on imagine du harem, quoi.
Je sais pas, quand tu disais l'école de harem, pour moi, c'était une école où on t'apprend comment vivre pour être dans un harem. C'est encore plus glauque.
Non, en fait, on te cultive de ouf. Elles y passent quasiment toutes, parce qu'on part du principe que toutes les jeunes filles qu'on récupère, elles peuvent devenir mères d'un futur sultan. Donc il faut qu'elles soient super éduquées, quoi.
Ouais, c'est vraiment une prison, quoi. Enfin,
ah mais totalement. Et puis c'est des nanas, elles parlent pas le turc en arrivant. Elles sont enlevées au fin fond de leur steppe, etc. Donc on leur apprend le turc. On essaye vraiment de les cultiver au maximum. D'autant plus que vous imaginez bien que le sultan aussi, il est entouré par parfois 1500 nanas qui sont quand même toutes super jolies. Il peut pas sélectionner les nanas qu'aux critères physiques. Je pense que, enfin voilà, il va.
Ça va pas être facile pour lui, hein, je comprends.
Non,
hein,
mais voilà, mais je veux dire, il y a eu des vraies histoires, je vais en mentionner quelques-unes, mais il y a eu des vraies histoires d'amour pour le coup et d'exclusivité entre des sultans et des sultanes de harem. Quoi. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de leur vie. Et donc, à la mort du sultan. Du sultan du coup en titre, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, la mort du sultan, c'est branle-bas de combat. C'est-à-dire que toutes celles qui ont des fils...
Ouais, mais on a dit que c'était le premier.
Eh oui, mais ça, c'est une loi qui n'arrive qu'en 1603. Avant ça, il n'y a pas de réglementation dans l'Empire ottoman pour savoir le cœur des fils.
Sur le trône.
C'est le premier qui a buté tous ses frères. Et donc là, autant vous dire qu'entre dans le harem, entre les mamans, mais c'est la guerre des mamans. Je pense qu'elles apprennent tout à leurs fils, des tout petits, comment bien étrangler d'un coup, tu vois, tac.
Horrible.
C'est horrible. Et c'est vraiment la règle du fratricide. Fratricide. Et je trouve ça absolument horrible et odieux. Mais très souvent, c'est l'aîné qui bute les petits frères.
Et du coup, l'aîné, est-ce qu'il peut choisir qu'il repart à zéro?
Oui, on change le harem, y arriver. Okay. C'est-à-dire qu'elles vont toutes... Alors, soit celles qui sont encore vierges, notamment les odalisques, celles qui sont vierges, qui n'ont pas eu d'enfants, elles peuvent demander... la faveur du sultan pour avoir le droit de sortir en fait du harem, d'avoir autre chose, soit de se marier, soit, et donc ça peut arriver où le sultan va les offrir et donc elles vont arriver dans un autre harem d'un autre pays.
Horrible.
Sinon elles vont à la maison de retraite du harem où pareil elles n'en sortent pas, elles retrouvent la vieille sultane validée de il y a deux générations qui est en train de tricoter ses moufles là et elles n'en sortent pas.
Mais ça arrive aussi qu'elles prennent.
Moi, elles se font pas violer.
Qu'elles deviennent parmi les femmes de son harem à lui. Qui migre de club, quoi.
Ça a dû arriver, mais en tout cas, dans la règle, théoriquement, non. Parce que ça fait bizarre, refait tout son harem. Voilà, il renouvelle tout son harem. Okay. Ouais, mais j'avoue que c'est, sinon c'est glauque, quoi. Tu sais que tu couches avec des nanas que papa avait déjà sur son oreiller, c'est archi glauque. On parle beaucoup papa-maman hein, dans ce sujet.
Ouais, ouais, je suis pas bien là.
Et donc la mère de l'enfant qui a réussi à buter du coup ses frères, elle devient la sultane validée et donc elle est archi tranquille jusqu'à la fin de sa vie et elle devient une des femmes les plus puissantes du royaume, quoi. C'est l'avantage pour elle. Alors toutes ces jeunes femmes, elles sont surveillées et encadrées et parfois servies aussi par des eunuques.
Ouais, parce qu'ils peuvent pas aller.
Ben voilà, alors voilà, c'est tout à fait volontaire. Donc des eunuques, pareil, ce sont des esclaves parce que, enfin, ce sont des non-musulmans parce qu'ils ont eux aussi le statut d'esclaves. Donc eux, souvent, ils viennent d'Afrique noire, aux alentours du lac Tchad ou de l'Éthiopie. C'est des cadeaux de rois africains au sultan. Et quand ils arrivent, on les castre. Et ensuite, ils passent leur vie à. Enfin, ils ont une vie qui est quand même. C'est un peu des surveillants de collège, en fait. Hein. Ils ont une vie qui est super remplie, c'est-à-dire qu'ils vont répondre aux caprices de ces dames. Et ils vont aussi les calmer un petit peu parce qu'elles essayent parfois de se buter entre elles. Hein, mais il y a eu des cas. Vous rendez compte.
Les enjeux sont ouf, ouais.
Mais oui, les enjeux. Et c'est la seule chose qu'elles ont dans leur vie, en fait. C'est comme une télé-réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, les meufs, elles passent leur vie à se faire chier. Et à élaborer des stratagèmes pour essayer d'évoluer un petit peu dans la micro-société dans laquelle elles vivent. Elles sont coupées du monde, en fait.
L'enfer.
Et donc, elles passent leur vie à se mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment une vie infernale.
Les ch'tis à Persepolis.
Comment ça ?
Non, mais j'imaginais la télé-réalité.
Et donc, bah voilà, le harem, en fait, ça consiste, la vie dans le harem, à se lever très tôt, à faire le ménage, à préparer à manger, à avoir des cours. Et à essayer de ne pas se faire empoisonner par ses rivales parce que le sultan il t'a fait un clin d'œil, quoi. Et donc c'est quand même un sacré barouf. Et puis parfois il faut également aussi échapper aux crises d'hystérie d'un sultan un peu fou. Il y a un sultan par exemple qui s'est appelé Ibrahim. Au XVIIe siècle, il a fait une énorme orgie pendant toute une nuit dans son harem, le truc qui arrivait quand même assez rarement parce que le sultan il avait souvent ses favorites du moment. Mais on n'était pas dans un délire d'orgie toutes les nuits, tu vois, clairement pas. Et donc lui, il s'est fait une énorme orgie et il a dit « Ah bah maintenant que j'ai goûté à tout, il faut qu'on renouvelle. » Il a fait jeter dans la Méditerranée depuis le haut de Topkapi toutes les meufs de son harem dans des sacs.
Horrible.
Et il a renouvelé son harem, donc 600 nanas comme
vous
ça.
Vous n'avez pas des sujets plus joyeux
le déménagement arrive.
Ah, j'ai hâte.
Et en plus, elles vivent vraiment les unes sur les autres parce que sauf... les concubines ou les mères d'enfants, elles dorment toutes dans des dortoirs, en fait. Donc, elles dorment toutes sur des matelas, collées les unes aux autres. Enfin, super, bonjour l'intimité, bonjour l'ambiance. Elles peuvent pas avoir d'objets personnels parce que, bah, en fait, il y a des vols. Le sultan, il te fait cadeau d'une petite bague ou quoi. Ah, mais ouais, il y a des vols et tout. Enfin, ça part totalement en cacahuète. Si le sultan te remarque, te fait un clin d'œil ou quoi, ou va dire à sa mère, elle, je l'aime bien, parce que c'est la mère quand même qui choisit, tu vois. Et bien, bah, du coup, on va te dire, toi, à mon avis, t'as un grand destin qui t'attend avec le sultan. Donc, qu'est-ce qu'on va la faire ? On va la sortir du dortoir, on va l'habiller, lui limer les ongles, lui filer d'un seul coup plein de tenues, plein de bijoux, quoi, et lui offrir une grande suite à l'étage. Et si, pendant 2 semaines, le sultan la touche pas, on lui reprend tout, on la renvoie au dortoir, tu vois ? Tu te rends compte, ça fonctionnait comme ça. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période...
Mais il y avait une grande mortalité ou pas, là, dans les harems ?
Bah, je sais pas, parce qu'en même temps, je pense que comme c'était au centre du palais de Topkapi, c'était pas touché par les épidémies.
Ouais.
Ça, je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu de source qui indique qu'on y meurt forcément très très jeune. Mais donc ça, je saurais pas trop trop te dire. Et il y a un grand cas de sultane qui a bien réussi, dont je voudrais vous parler. C'est une jeune femme que les Occidentaux appellent Roxolane. Donc elle vit en Ukraine actuelle. À 15 ans, elle se fait rafler, du coup. Et elle atterrit au harem de Topkapi. Mmh. Et donc elle parlait pas un mot de turc. Et en fait, il y avait déjà le sultan avait déjà un fils. Elle était déjà mariée avec sa concubine principale. Et elle, ça va être la première. Donc déjà, elle va enchaîner. Elle va faire 3 fils, je crois, et 2 filles au sultan. Donc elle va réussir à enchaîner les trucs. Elle va être super intelligente parce que elle va lui dire au sultan, alors qu'elle était chrétienne orthodoxe, elle va enchaîner elle va se découvrir une passion pour l'islam en lui disant ah là là c'est vraiment génial, et lui il va être touché de voir que c'est une nana qui a la foi vraiment super fort. Et donc du coup il va la franchir et il va lui proposer de se convertir alors qu'elle lui avait pas encore donné d'enfant.
Okay.
Et donc elle a joué, elle s'est fait remarquer malin comme ça en jouant la pieuse, et donc il l'a franchie pour qu'elle puisse se convertir. Et quand il va vouloir coucher avec, elle va dire ah non, non désolé, mais une femme musulmane qui se respecte, elle couche pas si elle est pas mariée. Et bim, elle va réussir à l'épouser comme ça.
Malin.
Et donc elle se fait marier avant même de lui avoir fait des enfants. Elle lui a fait 3 enfants. Au final, il va avoir une relation exclusive avec elle, c'est-à-dire qu'il ne va en épouser aucune, et ce jusqu'à la fin de leur vie. Elle va devenir la big boss du harem. Et en fait, elle va réussir à faire buter par ses fils le fils aîné. Donc elle est enterrée à Istanbul, donc dans la mosquée de Suleyman. Elle est enterrée juste à côté de son mari, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur une quasi-reine qui avait une relation exclusive. Elle a rencontré tout un tas d'ambassadeurs, de rois étrangers quand ils venaient. Enfin, elle était voilà. Et je pense qu'elle a carrément presque manipulé son époux. Elle avait un pouvoir de ouf. Mais elle a super bien réussi cette nana-là. Donc comme quoi, c'est possible. Et je finirai sur une petite entre guillemets anecdote. La femme de l'épouse de ce cher Erdogan, en 2016, s'est prononcée sur le harem en disant qu'il était un petit peu regrettable que les harems n'existent plus parce que c'était l'école de la vie.
Oh mon Dieu.
Voilà. Et ben moi, non, je ne suis pas du tout d'accord.
Tu m'étonnes.
Sympa, encore une famille bien sympathique.
Ouais, ça confirme ce que je pensais déjà.
Raison
de lui.
Plus d'aimer cette famille. Hein,
ouais. Encore un sujet très très chouette, encore badant, parce que moi, ouais, j'avoue que les 600 sacs poubelles jetés à la mer, ça m'a un peu retourné le bide. Mais...
Ah, mais c'est quelle horreur, quoi.
Ouais,
quelle horreur.
Plutôt. Du coup, petit changement de sujet, de localisation.
Ichouchade.
Ichouchou.
Je vais te le faire, mon temps de déménagement.
Comment c'est lourd à porter ? À quel étage habitez-vous ?
27e étage ?
Sans ascenseur.
Oh, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way.
Très bien, très bien.
Oui. Donc oui, on a tous vécu cet enfer qui est le déménagement, je pense. Ça peut très bien se passer, comme ça peut être un énorme calvaire. Tu sais, c'est le moment où tu mets tout en carton, tu retrouves des objets que tu as oublié l'existence, ce moment où tu retrouves tes pièces d'identité que tu avais perdues il y a 6 mois et que tu as refait te faire parce que tu l'avais perdue.
Ça, c'est juste parce que tu ranges pas tes affaires. Hein.
Enfin, non, c'est juste Camille.
C'est scientifique.
C'est-à-dire qu'en soulevant le dernier meuble, je te jure, c'est vrai, on a retrouvé ma carte d'identité que je viens de faire refaire et que j'avais déjà fait faire il y a 6 mois.
Aïe, 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 aïe.
Voilà.
Ouais, c'est aussi ce moment-là où pour motiver tes amis, tu les achètes avec des bières et des pizzas. Mmh. Et quand tu finis, tu dis la prochaine fois, je prends des vrais déménageurs.
Et tu regardes le prix des déménageurs la prochaine fois et tu fais, je vais plutôt appeler mes potes.
Ah. Donc voilà, on connaît tous ce déménagement-là. Et donc je vais vous parler, moi, un peu de l'origine du déménagement et des histoires qui tournent autour.
Ah. J'ai toujours du mal avec le principe d'origine du déménagement.
Non, mais quand je dis l'origine, c'est surtout...
Je pense que c'est parce que la téléportation n'a pas encore été inventée.
L'étymologie et puis voilà, le mot déménagement, comment on est arrivé à ça.
Tu défais ton ménage et tu refais ton ménage.
Alors déjà, le mot déménagement vient du mot ménage. Au XIIe siècle, il s'écrivait M-A-I-S-N-A-G-E.
Attends.
Messnage.
Messnage.
Ah, ok.
Donc ça, on est au XIIe siècle. Donc ça ressemble beaucoup à maison. M-A-I-S. Il y a le début.
Alors jusque-là, vas-y, on te suit. Jusque-là, ça va.
Et ça voulait dire la demeure, séjour.
OK.
Jusque-là, tout va bien. Mm-hmm. On arrive au XIIIe siècle. On retire le S. Donc, M-A-I-N-A-G-E.
Ménage.
Toujours.
Ça veut dire maison.
Ça voulait dire l'administration des biens.
OK.
Et on dit de ménage pour tout ce qui est fabriqué à la maison.
OK, donc... Une femme de ménage, c'est une femme qui fabrique la maison.
Un peu, oui.
Non, mais en Franche-Comté, on a un gâteau de ménage et ça se vend. Non, mais si. Et ça se vend dans les boulangeries et c'est archi bon, franc-comtois.
Je répète, on est au XIIIe siècle.
C'est un vieux gâteau de yaourt. Pardon, vas-y.
Non, c'est trop bon.
Non, je trouve ça drôle. Et c'est aussi à cette période où ménage devient le mot utilisé pour la cohabitation entre un homme et une femme dans le cadre du mariage.
Ok. Ouais.
Tu en parlais tout à l'heure, Émilie, exactement. Donc, au XIVe siècle, on l'écrit comme aujourd'hui, et c'est utilisé pour l'ensemble des biens, des meubles et des objets qui
que constitue l'habitation d'une personne.
Ok.
Et donc, du coup, le déménagement,
c'est que tu défais,
c'est avec le préfixe dé, voilà, ça, donc ça donne le sens opposé du mot qui suit, et donc c'est enlever les biens d'une famille de la maison.
Okay.
Et emménager, c'est mettre en ménage.
Ok.
Voilà. Donc ça, c'était l'étymologie.
Ah, wow, c'est pour ça que quand on dit, genre, on se met en ménage, c'est que, ok, on fait un ménage à deux.
Mais c'est pas, on va faire le ménage tous les deux.
oui, bah, je me doute. Hein, parce que,
Avec la femme de ménage.
Donc maintenant qu'on a vu l'étymologie, on va s'intéresser à comment un déménagement se faisait avant.
Oh.
Ah. Donc c'est un peu comme aujourd'hui.
Avec des bières et des pizzas.
mais sans carton.
Non, mais sans carton, on prenait ses meubles, on les déplaçait.
On prenait les amphores grecs, on foutait nos...
Avec un chariot ou bien un âne ou je sais pas quoi. Et après, le truc, c'est que ça varie en fonction de la classe sociale de la personne aussi.
Ah bah aujourd'hui aussi. Hein,
donc tu te doutes qu'entre un paysan et un noble, bah, c'est pas pareil. Et surtout en mobilier du Moyen-Âge, il n'y avait pas grand chose. Enfin, s'il n'y avait pas une IKEA, c'était pas.
C'était plus en béton, quoi, donc à transporter.
Non, il y avait beaucoup de bois massif et tout. Enfin,
en béton
massif.
Ouais,
je dis ça.
Pourquoi est-ce qu'il dit béton en plus?
C'est là, moi j'étais en train de me dire, un lit en béton au Moyen-Âge, j'essaie de visualiser.
Je dis directement dans l'habitation, avec des pierres et genre t'as une couche en pierre, quoi. T'as pas un lit, un sommier. Mais bon, je t'arrive après toi.
Il n'y a pas de souci. Donc, en mobilier au Moyen-Âge, il y avait la table à manger qui, rappelez-vous, dans la saison 1, j'en avais parlé, a été démontable parce qu'il fallait la monter.
Dormait dans la même pièce.
Parce qu'il fallait monter pour la manger, d'où l'expression
« mettre la table ».
Donc, un coffre pour ranger les draps et les accessoires, des placards ou des armoires, un lit qui était très large, mais très court. Parce qu'on y dormait...
Et un peu penché, c'était un peu un toboggan.
Non, mais on y dormait souvent assis par peur de mourir.
Ouais, mais si la place allongée étant...
la place du mort, enfin la position du mort.
Ouais.
Et un petit dressing à 17 000 euros.
donc après, il y avait des chaises, des bancs et aussi les WC qui étaient transportables.
Et la litière du chat.
C'était un seau, en fait, non? C'est pas ça?
Non, des fois tu avais des chaises avec un trou. Je me suis pas trop renseigné, je t'avoue.
Ah, un prochain truc sur les toilettes, je suis trop chaud.
Mais oui.
Mais ouais. Après, donc pour les nobles et les seigneurs, ils n'avaient pas non plus énormément de meubles parce que la seule différence avec les paysans, c'est que eux, tous leurs meubles, tous sont démontables parce que en cas de guerre, en cas de il fallait changer, hop, ils perdent pas de temps, en avant Simone, ils embarquent tout.
Très bien.
Et enfin, pour les paysans, ils déménageaient très très peu, tout simplement. Parce que c'était.
Déjà, quand ils avaient une maison, ils étaient contents.
Ils n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir acheter ou de louer un autre logement. Et 90% de la population française habitait dans la campagne. J'ai pas mis la date, je l'ai oublié, mais je trouve ça ouf. 90%. Enfin.
Ouais, mais c'était vachement plus équilibré.
Puis à la campagne, il vaut mieux pas déménager parce que tu as les terres que,
c'est ça.
Que tu exploites, que tu dépends d'un seigneur, etc. Tu dois changer d'une seigneurie, ça doit quand même être bien, bien relou.
C'est ça, le truc.
Je pense que le seigneur, tu lui dis « Ah, gros, j'aimerais bien venir chez toi », il va dire « C'est quoi ton problème, en fait ?»
Le seul moment, en général, où tu déménageais, c'était quand tes terres devenaient inexploitables. Donc, on a parlé de tout ça. Qui dit déménagement ou emménagement dit...
Déménageur. Camion.
Crémaillère.
Ouais, exactement, un pendaison de crémaillère.
Ouh,
donc, je vais parler rapidement de son histoire. Donc, l'expression pendaison de crémaillère vient du...
Moyen-Âge.
Bien joué.
Quand j'étais petite, pour moi, c'était la pendaison de crémière. Et
c'est horrible.
Si, c'est vrai.
Et qui sait qui va faire du fromage?
Pour moi, c'était archi glauque. Je me disais, ça veut dire qu'avant, tu sais, j'avais bien compris que c'est une expression, mais avant, on pendait une crémière.
T'as une vieille dame qui pend dans le salon, là. Bon, bah, merci d'être venue pour ça. Hein,
Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça pendaison de crémaillère?
Moi, je crois
la crémaillère, c'est pas le truc qu'on met sur le feu.
Exactement. À l'époque, donc au Moyen-Âge, à la fin d'une construction du bien, la tradition disait qu'il fallait inviter toutes les personnes qui ont participé à la construction du logement. Et on les invitait à dîner.
Ça se fait un peu moins depuis.
C'est vrai. Quoique sur les chantiers, ils font souvent un barbecue à la fin. Attention.
Okay.
Et du coup, c'est là d'où vient l'expression. Avant, il n'y avait pas de plaque à induction.
Jusque là, ouais.
Tu pouvais pas trop régler la puissance de la plaque.
Apprends la vie d'avant.
Du coup, les chaudrons, elles étaient suspendues à une tige en fer où tu pouvais régler sa hauteur en fonction des flammes. Et cette tige en fer s'appelle
la crémaillère.
Voilà. Oh. Et vu que la crémaillère était la dernière chose qu'on installait dans une nouvelle habitation, voilà, okay. Donc on pendait la crémaillère en invitant des gens. Rapidement, c'est quoi l'équivalent de la pendaison de crémaillère dans les autres pays, dans les autres cultures ?
La pendaison de crémaillère ?
Presque ! Well, well, well !
Donc, vous êtes bilingue en italien, apparemment, c'est ça ?
En Angleterre, ça se dit housewarming,
ouais.
Qui veut dire
un réchauffement
de la maison. Parce que la tradition chez eux, c'était d'inviter du monde pour chasser les mauvais esprits. Donc tout le monde venait.
Logique, du coup, il n'y a aucun rapport entre les deux.
Si, si, ça arrive. Donc tout le monde venait avec une bûche et il l'a jetée dans la cheminée. Et quand tu allumes le premier feu de l'année, c'est censé chasser les mauvais esprits.
Ok. Ouais.
En Allemagne, par exemple, on offrait des cadeaux, dont du pain et du sel.
Pour les tartines.
Non, synonyme de prospérité au Moyen-Âge.
Ok.
Ouais. En Italie, on ramène du vin et de l'huile d'olive, très très cliché. Pour amener l'esprit de la fête dans le nouveau logement. Et au Sénégal, enfin dans certaines régions en tout cas, la famille et les amis se réunissent pour lire le Coran, histoire de purifier le nouveau logement.
Bon. Ok, donc il y a des différents niveaux de fun par de l'allemand. Ouais.
Et j'ai essayé de poser des questions à plein de nationalités autour de moi, aux Espagnols et tout ça. Ils le font très peu, ah ouais. La pendaison de crémaillère, c'est finalement c'est très français, moi je trouve.
Bah, et après, il y a aussi des cultures même autour de nous où tu as le fait d'inviter chez toi, c'est assez différent en fait. Tu n'invites pas aussi facilement forcément.
Ouais, genre j'ai demandé à une Espagnole qui m'a dit que bah, la maison, on n'y fait que dormir.
Bah, c'est ce que me disaient, j'ai aussi des connaissances qui avaient vécu là-bas qui disaient en fait, c'est. T'as moins de facilité à inviter des collègues. Après, je vais pas faire des généralités parce que je n'y ai pas habité. Mais en France, t'as le côté classique. Même un collègue qui vient d'arriver dans ta boîte, tu fais, tu viendras avec Michel, ta femme, à la maison. Je te présenterai Michel, mon autre femme. Enfin, bon. mais c'est vrai, c'est plus naturel d'inviter chez soi. Il y a moins le côté tabou de non, personne vient chez moi. Quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, je vais finir par quelques statistiques parce que pourquoi pas.
Combien y a-t-il de crémaillères par maison ?
Elles viennent de quel site, tes statistiques ? Les déménagements point net.
Ça va venir, ça va venir. Donc, en France, c'est 3 millions de déménagements par an.
La
soit
vache.
10% des foyers. C'est énorme. À peu près, donc, en gros, 70% des cas, c'est pour des raisons familiales. Donc, naissance, décès, mariage, divorce.
Attends, 3 millions de déménagements, 10% des foyers ?
Les 3 millions de déménagements, ça représente 10% des foyers.
Ok, c'est ça que je n'avais pas.
Oui. Okay. Donc 70% des cas, c'est pour les raisons familiales. Et les 30 restantes, c'est pour les raisons professionnelles. Donc embauche, mutation, chômage, retraite, etc.
Okay.
D'après le site Rêve de Comble, on déménage en moyenne 4,6 fois dans sa vie.
Ah bah moi j'ai explosé les sujets.
Sans compter les logements étudiants.
Ah, ok, ouf.
Ouais, je le savais. J'ai
nos amis médecins qui ont fait 12 ans d'études, calmez-vous, vous pouvez commencer qu'à partir de maintenant.
À la question, avez-vous envie de déménager ? 51% des locataires répondent oui, contre seulement 20% des propriétaires.
Ah bah ouais,
c'est
j'en sais rien en fait.
C'est logique.
Mais non, mais as-tu envie de déménager ? Moi je vais répondre oui. Tu me proposes quoi en fait ? C'est
sûr. Bah non, parce que des fois t'es très très bien là où t'es.
Ah moi je suis bien où je suis là.
Voilà. Et toi, est-ce que tu as envie de déménager, Elias ?
Non, ça va, je suis bien.
Tu fais toilettes
partie des 80% de propriétaires. Bref, c'était pas... Voilà. Et les locataires déménagent en moyenne tous les 7 ans et les propriétaires tous les 13 ans.
Ah la vache !
Donc plus que 11 ans, Elias, avant
que... 13 ans dans le même logement.
Non, ça fait 3 ans bientôt.
3 ans, ouh !
Ça me paraît énorme.
Ah mais c'est long.
Après, c'est en moyenne, et puis je te rappelle que c'est le site Rêve de Comble.
Ouais. Et puis le nom un peu mal choisi quoi. Ouais, rêve de comble, je sais pas, c'est un peu genre c'est une vraie tête de comble.
Et bah merci pour moi.
Bah merci beaucoup. Bah on vous partagera ces statistiques de Cambridge Institute of Technology of the Management apparemment.
Hein. Exactement. Ouais.
Cool, merci. Bah très 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 content.
Oui.
En plus, on a eu moult pourquoi dans ce petit sujet, genre pourquoi la crémaillère.
Exactement. Quoi, machin, donc... Parce qu'à la base, il faut le dire, je devais faire un pourquoi. Et oui. Juan,
malheureusement,
feu Juan, tu nous manques.
Il a dû déménager, mais juste le temps de 2 jours, en fait, oui. Il est en déplacement. Donc, il nous rejoindra bientôt.
Reviens, Juan.
Ouais, reste en vie, prends soin de toi, je ne sais pas. Enfin, fait tout ce qu'il faut pour survivre. Voilà. Bah, en tout cas, c'était très très chouette. Nous, bah, oui, on vous l'a à demi annoncé, mais on va continuer de diffuser tout cet été. On a quelques petits trucs sympas qui arrivent plutôt pour la rentrée, mais on va vous faire un été plutôt sympathique également. Mais... on a pas mal de choses qui arrivent.
Comment ? Avec cette chaleur.
Ouais. On a pas mal de choses sympathiques qui arrivent cet été. Enfin, personnellement, en tout cas, extrêmement content des derniers messages qu'on a eus sur iTunes.
Oh, absolument mignon.
Vous êtes chou. Mais vous pouvez continuer quand même. Hein.
Ouais, alors justement, continuer parce que ça nous fait plaisir de ouf. C'était super mignon comme message. Très, très chouette. Et puis, on voit qu'on grimpe petit à petit dans ce cher classement Apple Podcast. Et on est plutôt content de pouvoir proposer notre contenu à d'autres personnes. Et puis après, elles l'écoutent si elles veulent. Mais voilà, on est content de pouvoir faire connaître ça. Donc, n'oublie pas de partager, liker, commenter, envoyer. Ça nous fait toujours plaisir. Dans tous les cas, merci Émilie. De nous avoir rejoint, c'est trop plaisir. Je pense que tu as passé un bon moment. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ça marche ?
Bisous.
Ciao.
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.